Bonsoir et bienvenue à tout le monde. La Maison de l'Architecture accueille ce soir, une fois n'est pas coutume, une véritable compagnie, non pas celle des jésuites car la chapelle aspire désormais d'autres débats, mais celle des architectes experts auprès de la Cour d'appel de Paris, que je salue au nom du président de notre association, Michel Seban, et en la présence de leur président, Patrick Demanche. Alors, votre compagnie rassemble parmi 17 autres habilités à exercer des missions d'expertise auprès des magistrats en fonction de compétences spécifiques, 130 architectes, je crois, qui mettent, et là je cite votre site internet, leur maîtrise, leur équité et leur probité au service de la justice. Alors, ces valeurs engagées illustrent à l'évidence l'exigence de vos fonctions, mais aussi leur intérêt pour la société et pour les citoyens que nous sommes, et aussi la diversité des métiers des architectes que la Maison de l'Architecture s'efforce de mieux faire connaître, comme elle l'a déjà initié l'année dernière, notamment au cours d'une table ronde autour des métiers de l'architecture publique. Alors, notre association se félicite de votre présence et de votre adhésion collective, mais je souligne aussi ce soir qu'elle ouvre grand ses portes, ses débats et ses rencontres, ses spectacles, ses partenariats privilégiés avec des institutions comme le Louvre ou le Centre Pompidou, ses visites quasi mensuelles, ses voyages, à toutes les initiatives et adhésions individuelles. Je sais qu'il y a ici, par exemple, des magistrats, des avocats. L'adhésion n'est pas réservée aux professionnels de la profession, comme dirait Godard, mais au contraire, elle permettrait à l'association d'ouvrir ses frontières et de mieux assurer les missions culturelles qui sont les siennes. Alors, je vais laisser à Patrick Demanche le soin de présenter ses invités, Pierre Pinon et Jacques Frédé, que la compagnie a souhaité réunir dans le cadre d'une sorte de formation permanente auquel elle est invitée à souscrire régulièrement. Je voulais dire qu'on était heureux que les publics se croisent ce soir à leur rencontre, car ces historiens construisent et surtout enseignent une histoire de la ville dont le mouvement contribue à nourrir notre socle commun, à inspirer sans doute aussi vos pratiques professionnelles et ce faisant à préparer l'environnement de nos successeurs. Je vous laisse en leur compagnie et je vous souhaite une excellente soirée.
Oui, je vais être extrêmement bref. Notre vice-président Robert Legras va présenter les conférenciers. Et avant de vous les présenter, je voudrais simplement rappeler le prochain colloque par Maître Martin le 30 janvier à 18h à la Maison Nicolas Barré, pour tous les consoeurs et confrères experts, sur les principes directeurs de la procédure. Je voudrais dire également un mot sur les ateliers débats que nous avons initiés au début de l'année sur des thèmes qui ont été choisis par nos membres, en particulier, par exemple, le référé préventif, la réception judiciaire, et un thème aussi qui nous tient à cœur, c'est notre nouveau site ceacap.org que nous voudrions développer et avec lequel nous voudrions que tous nos membres soient familiarisés. Et donc j'invite tous les membres de la compagnie à se faire connaître pour pouvoir organiser ce petit séminaire afin que nous puissions, ajuster la date et la salle en fonction des participants. Voilà, je vais passer la parole à notre ami et confrère Legras qui va vous présenter les deux conférenciers.
Bien, les deux conférenciers sont tous les deux architectes. Jacques Frédé est architecte des DPLG. Il a étudié à l'Université de Pennsylvanie et il a travaillé durant 2 ans dans l'agence de Louis Kahn. Il est enseignant à Paris-Belleville, dont il est un des membres fondateurs avec Bernard Huette. Il a participé en particulier au guide du diagnostic des structures en 5 volumes qui a été publié par l'ANA en 1984. Avec Bernard Charuet. Il a publié en 2003 un très bel ouvrage sur les maisons de Paris et la typologie de l'architecture mineure parisienne, de la fin de l'époque médiévale à nos jours. Donc Jacques Frédet parlera de la pathologie principalement des immeubles parisiens. Pierre Pinon est également architecte des PLG. Il a obtenu un doctorat d'état d'historien. Il a été pensionnaire de l'Académie de France à Rome. Il travaille également sur l'histoire de l'architecture et de la ville, sur l'histoire des paysages et de l'archéologie. Il enseigne également à Paris-Belleville et il est conseiller à l'Institut national d'histoire de l'art. Entre autres ouvrages, il a publié en 1989 « Paris, genèse d'un paysage », « Les traversées de Paris » en 1989, « Paris Haussmann » en 1991, « Paris, biographie d'une capitale » en 1999, « Place et parvis de France » en 1999 et « Les plans de Paris » en 2004, ainsi que « Louis-Pierre et Victor Beltran » en 2005. Baltard. Oui, pardon, Baltard, qu'est-ce que je dis, bien sûr. Donc, ce sont des architectes qui ont choisi l'enseignement, la culture et la recherche, et je crois que toute la profession peut leur en être extrêmement reconnaissant. Les ouvrages principaux de nos conférenciers seront exposés derrière, on pourra les voir à la fin. Je leur laisse la parole en les remerciant à l'avance. Donc, Pierre Pinon, pour commencer.
Merci.
On va l'éteindre, puis si Jacques en a besoin.
Oui. Ah, oui, attendez. Vous mettez très attention. Hein. Je ne passerai pas des diapositives tout de suite, mais j'attends que l'appareil soit bien en place. Attendez, je vais y aller, attendez.
Oui.
Excusez-moi pour les problèmes techniques, mais je ne voudrais pas que les diapositives retombent, vu que l'appareil est un peu... Donc, je vais vous parler des grands travaux de Paris sous le Second Empire, qu'on a l'habitude de qualifier de travaux haussmanniens. Je reviendrai sur ce thème tout à l'heure. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit essentiellement de deux choses dans l'histoire de l'urbanisme parisien, mais même dans l'histoire de l'urbanisme français et européen en général. Il s'agit d'une date très importante pour deux raisons. D'abord, il s'agit de la première opération de remodelage du centre historique d'une ville d'une telle ampleur. Il s'agit d'un remodelage et non pas d'une régularisation, comme on l'a appelé quelquefois, étant donné que le réseau qui est mis en place sous le Second Empire est absolument déduit de ce qui existait déjà et le modifie par certains aspects, mais il ne s'agit pas d'une régularisation, d'une mise au quadrillage, d'une grille qui serait imposée sur un plan. Il s'agit d'un plan nouveau, mais qui est déduit du plan ancien. Donc il s'agit d'une opération qui s'est effectuée sous la forme de percement, c'est-à-dire la forme la plus radicale d'intervention dans la ville, ou du moins des formes d'intervention que l'on a utilisées avant le milieu du XXe siècle. La suite nous ayant montré des opérations beaucoup plus importantes, où on n'a pas simplement percé des rues nouvelles, mais où on a rasé des quartiers entiers. Mais disons que dans l'histoire de l'architecture de l'urbanisme telle qu'on le pratiquait, c'est la première opération d'une telle ampleur. On connaissait la percée, il y en a eu à Rome dès le XVIe siècle, mais en général, on en pratiquait une ou deux. Et on en a tellement peu pratiqué à Paris jusque sous le Second Empire qu'on pourrait les dénombrer sur les doigts de deux mains, pratiquement. Le deuxième fait fondamental dans l'histoire des opérations du Second Empire, c'est l'implication des pouvoirs publics dans l'aménagement urbain. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'essentiel des opérations urbaines, création de voies nouvelles, création de lotissements, création de quartiers, ont toujours été des opérations d'initiative privée, faites par des entrepreneurs, des financiers, souvent associés à des architectes, notamment au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, mais des opérations absolument d'initiative privée, l'État ou la ville, mais à Paris les deux sont confondus, se contentant de contrôler les projets venant d'initiatives donc totalement privées. Les opérations de type, disons, public étaient extrêmement rares. On peut trouver comme exemple ce qu'on appelle les traverses pratiquées au XVIIIe siècle dans les villes de province pour le passage des routes royales. Mais ce sont des opérations tout à fait exceptionnelles. Et puis il y a aussi les embellissements ou les places royales, évidemment, mais qui sont des opérations extrêmement ponctuelles, certes prestigieuses, mais ponctuelles, et qui d'ailleurs ont aussi un caractère privé extrêmement prononcé. Les places royales, on l'oublie très souvent, même si, évidemment, elles sont dédiées au roi, même si quelquefois le roi donne le terrain sur lequel l'opération va se passer, ce sont aussi des lotissements. La place des Vosges, la place Vendôme, la place Dauphine sont en même temps des lotissements, non pas spéculatifs cette fois, mais de rentabilisation d'une opération. Alors pourquoi ces grands travaux, pourquoi cette grande nouveauté à la fois dans le type d'opération et dans le mode de décision et de financement dans la ville de Paris? Alors pourquoi à Paris? Déjà, c'est parce que finalement Paris a toujours été une grande ville. C'est la plus grosse ville d'Europe au Moyen-Âge. Au début du XIXe siècle, c'est encore une des plus grandes villes d'Europe, avec Londres. Et cette ville, disons, s'est beaucoup stratifiée, beaucoup renouvelée sur elle-même. Il y a eu certes des extensions, plus ou moins bien planifiées, mais surtout, il n'y a jamais eu donc d'opérations un peu organisées dans le centre. Donc tout s'est passé un peu en fonction d'initiatives privées, et on se trouve donc dans un centre extrêmement encombré, dans lequel on ne peut plus circuler tellement il est encombré. Donc il s'agit de retrouver une circulation, enfin, qui n'a jamais été facile. On peut se souvenir de l'épisode d'Henri IV assassiné dans un embouteillage. Donc la circulation a toujours été difficile, on s'en est toujours plaint. Dès le milieu du XVIIIe siècle, la situation est jugée tout à fait insupportable. Il y a un texte célèbre de Voltaire au milieu du XVIIIe sur les embellissements de Paris qui explique que la chose la plus nécessaire en France est de percer des rues nouvelles dans Paris. Donc on le savait depuis un certain temps, mais on avait toujours reculé. Et donc après Voltaire, il a fallu pratiquement attendre un siècle pour que ces fameux percements de rues nouvelles dans Paris interviennent. Alors c'est la raison première. Mais il y en a une autre qu'on a très souvent oubliée parce qu'elle est plus discrète et moins explicite. Elle n'est pas toujours dite. Bien évidemment, quand on va commencer à percer des rues dans Paris, on va dire que c'est pour améliorer la circulation. Tout le monde comprendra. Mais il y a aussi derrière une volonté de réinvestissement du centre par un habitat bourgeois, confortable, salubre. On considère que à partir de cette époque, on considère que la plupart des immeubles ne sont guère habitables par des familles bourgeoises. Et depuis longtemps, les gens un peu aisés vont plutôt habiter à les périphéries, notamment à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, une sorte de déplacement du centre de Paris à cause des difficultés de circulation et de l'impossibilité de trouver des terrains disponibles pour construire de nouveaux immeubles dans le centre de Paris. Les gens riches, d'abord les financiers, les fermiers généraux à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, la bourgeoisie la plus aisée va habiter dans ce qui correspond à peu près le 9e arrondissement. Donc c'est le développement de la Chaussée-d'Antin, de la Nouvelle-Athènes, de tous ces quartiers à la mode à partir de la fin du XVIIIe siècle qui ont pour effet, j'y reviendrai, une impression de déplacement de la population vers le nord-ouest. Alors il y a aussi une dimension d'embellissement. Ce n'est pas une entreprise purement utilitaire. Et des embellissements dans le sens de l'Ancien Régime, c'est-à-dire à la fois le sens le plus le plus immédiatement compréhensible, rendre la ville plus belle, mais aussi la rendre plus commode, mieux équipée, l'aérer notamment. Alors, on trouve, évidemment, sous le Second Empire, des opérations comme le dégagement du Louvre, de ce qui se trouvait entre le Louvre et les Tuileries, le percement de la rue de Rivoli, le dégagement de l'hôtel de ville en ouvrant une place devant et une autre derrière, un certain nombre de grandes traversées de la ville, qui sont des opérations qui, dans leur esprit, auraient pu être réalisées sous l'Ancien Régime, qui ne l'ont pas été parce qu'on n'a pas eu le courage de le faire, en quelque sorte, mais qui dans leur esprit, n'ont rien de réellement nouveau dans leur dessin urbain. Donc on va ouvrir le boulevard de Strasbourg et le boulevard Saint-Michel, Strasbourg-Saint-Michel, Strasbourg-Sébastopol-Saint-Michel, nord-sud, Rivoli-est-ouest, on va ouvrir donc de grands axes pour traverser la ville, tout à fait dans l'esprit du XVIIIe siècle. On notera tout de même une évolution intéressante, c'est qu'il ne s'agit jamais de grandes compositions abstraites. Il n'y a jamais de composition exactement symétrique. On perce d'un point à un autre en fonction des nécessités. Ces nécessités, ce sont les monuments principaux, les équipements publics, les gares qui sont arrivées dans les années 1840 et qui constituent en quelque sorte de nouvelles portes pour la ville. C'est une remarque de Napoléon III qui dit que les nouvelles portes de Paris seront les gares. Il imaginait qu'on ne rentrerait plus à Paris par voiture, mais que tout le trafic se ferait par les gares et que ce seraient les nouvelles portes d'entrée dans Paris. Donc il s'agissait évidemment de relier les gares au centre et de relier les gares entre elles. Nous verrons tout à l'heure sur les plans le résultat tout à fait évident. Si on dessinait le réseau haussmannien, dit haussmannien, seul, sans le plan de Paris en dessous, hein, simplement en sortant du plan de Paris, les percées du Second Empire et en les mettant sur un fond de plan vierge, on ne comprendrait absolument pas la logique de ce plan qui ne peut se comprendre que comme complément d'un réseau qui existait déjà, donc que l'on complète, que l'on modifie, et comme liaison entre des points tout à fait spécifiques qui ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont les raisons principales. La dernière est la plus connue, mais finalement est la moins bonne, et plus les recherches évoluent, plus la chose se confirme. Bon, elles sont même au nombre de deux, mais relativement liées. La première, c'est qu'on a cru pendant longtemps qu'on avait entrepris ce programme pour chasser les pauvres. Évidemment, si on veut faire rentrer la bourgeoisie, on chasse les pauvres. Alors, on a effectivement fait rentrer la bourgeoisie dans les immeubles haussmanniens, ça c'est tout à fait clair, mais on n'a pas chassé les pauvres du tout. On l'a cru pendant longtemps sur la foi de mauvaises études, sur la foi de romans comme celui d'Émile Zola, donc à partir de romans ou de textes écrits par des ennemis de l'Empire, donc qui cherchaient à lui nuire après sa chute. Et en fait, toutes les études ont montré que les ouvriers qui ont été délogés des quartiers centraux sont restés exactement dans le même quartier, mais sont partis s'entasser encore davantage dans les rues qui étaient à côté, parce qu'en général, ces ouvriers, ces artisans avaient des activités liées à leur quartier et ne songeaient absolument pas à quitter leur quartier et perdre leur clientèle. Ce qui fait qu'on a amené de nouveaux habitants dans ces immeubles haussmanniens, mais les pauvres ne sont pas partis. Toutes les études, maintenant, le montrent très bien. Deuxième raison qu'on a traditionnellement invoquée, notamment pour des raisons peu explicables sous le gouvernement de Vichy, c'est qu'on voulait percer des avenues pour réduire les révoltes, faire charger la cavalerie et tirer au canon. Alors, l'argument à l'époque a quelquefois été employé par des gens, qui étaient les promoteurs de ces affaires, qui voulaient faire des affaires vraiment, et on trouvait que ça serait flatter le pouvoir que de lui sortir un tel argument, et qu'évidemment il trouverait une résonance étant donné la succession des révolutions. Quand même, on se situe à une période où il y a eu une révolution en 1789, une en 1830, une en 1848, il y a de quoi traumatiser des gouvernants. Et on sait qu'à chaque fois, ces révolutions, ce sont des gens qui se révoltent et qui essayent de prendre le centre, des gens qui souvent viennent des quartiers de l'Est, des quartiers ouvriers, et qui ensuite, quand ils refluent, arrivent à se réfugier dans les quartiers Est parce que la pénétration des troupes est extrêmement difficile. Alors, en fait, il se trouve que sur 70 percées environ, il n'y en a peut-être que 2 ou 3 qui peuvent s'expliquer de cette manière, ce qui fait tout de même peu de choses. Évidemment, il y a cet objectif dans cette série de rues comme la rue Monge, la rue Gay-Lussac, qui encercle en quelque sorte la montagne Sainte-Geneviève, qui était un quartier ouvrier un peu agité. Et puis, il y a le boulevard Richard Lenoir et le boulevard Voltaire. Alors, le plus évident, c'est le boulevard Voltaire, et ça, on le sait par des textes, la chose est tout à fait explicite. Les casernes de cavalerie étaient à Vincennes, la plus grosse caserne d'infanterie était au Château d'Eau, donc actuellement place de la République. Donc, il paraissait pratique, non pas de tirer au canon dans la ville, ce qui ne s'est vraiment jamais fait, ni de faire charger la cavalerie. Sur des barricades, c'est très peu efficace de faire charger la cavalerie. Il s'agissait simplement de mettre en relation les deux casernes, de manière à pouvoir disposer de troupes d'une manière plus souple, soit la cavalerie, soit l'infanterie, de mettre en relation les deux. On l'a dit aussi à l'époque, et c'est un témoignage que l'on ne peut pas nier, quand Haussmann a annoncé à Napoléon III qu'on allait couvrir le boulevard Richard Lenoir pour des raisons stratégiques, justement, pour empêcher que le canal Saint-Martin ne serve de barrière quand les émeutiers de l'Est se réfugiaient dans leur quartier et utilisaient le canal comme une sorte de fortification, de ligne de défense. Alors là, c'est dit très explicitement dans les textes de l'époque, dans les mémoires d'Haussmann, et on en trouve des témoignages dans d'autres textes. Moyennant quoi, des recherches récentes montrent qu'il y a une autre raison, et sur laquelle je reviendrai, qui sont des pétitions des habitants du quartier à cause des mauvaises odeurs et de la gêne. Quand le canal Saint-Martin s'est installé dans des quartiers qui n'étaient pas encore des quartiers bâtis, le trafic du canal ne gênait pas grand monde. Peu à peu, la ville s'est étendue vers l'est, a débordé le canal Saint-Martin, et le canal Saint-Martin s'est retrouvé vraiment dans la ville, et les activités commerciales du canal Saint-Martin gênaient plus donc les odeurs du Nord relativement stagnantes. Donc il y a eu aussi des pétitions des habitants du quartier. Là, c'est une découverte tout à fait récente. Alors donc voilà l'essentiel de ces raisons qui ne sont pas toujours celles auxquelles on s'attendait le plus. Alors les origines, j'ai commencé à les évoquer, mais je voudrais en redire deux mots. Il y a l'encombrement, il y a ce qu'on appelle le déplacement de la population de Paris. Au début des années 1840, paraissent au moins 5 livres qui s'appellent « Le déplacement de la population de Paris ». Donc cette idée que la population du centre de la ville et les choses les plus importantes, les gens les plus riches, les activités, risquent, à cause de l'encombrement du centre, de la difficulté de circuler, risquent de déplacer vers le nord-ouest, crée une sorte d'angoisse. On ne peut pas appeler ça l'opinion publique. Ce qu'on peut appeler l'opinion publique à l'époque, c'est l'opinion des notables. Il n'y a que les notables qui sont évidemment écoutés. Donc l'opinion tout de même de ces notables, notamment des gens de la rive sud, tous les gens du quartier latin de la rive sud jouent un rôle extrêmement important dans ce qui va se passer, parce que c'est eux qui sont le plus victimes de ce déplacement du centre vers le nord-ouest. C'est-à-dire ce sont eux qui, pour aller vers le nord-ouest où il se passe quelque chose, doivent traverser la Seine, traverser le centre impraticable. On a même des témoignages des années 1830-1840 de gens de la rive gauche qui renoncent à aller sur la rive droite parce qu'il faut une journée. On ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée si on a un rendez-vous dans les quartiers du nord-ouest de Paris, tellement la circulation est difficile. Alors c'est peut-être exagéré, mais on trouve en tout cas ce genre de témoignages. Il y a donc une idée qui se développe parmi les notables et parmi les gens qui réfléchissent à la ville, mais on va voir que les gens qui pensent la ville ne sont pas simplement les architectes, les ingénieurs, mais ce sont aussi tout simplement des notables, des commerçants. Beaucoup. Alors les commerçants, évidemment, ont un grand intérêt à faciliter la circulation pour leurs produits. Un des personnages les plus actifs est Lanquetin, qui est président de la commission municipale, qui est en quelque sorte le maire, mais qui n'a pas grand pouvoir à l'époque, mais quand même qui préside ce qu'on appelle aujourd'hui le conseil municipal, et qui est marchand de vin à la halle au vin, et qui évidemment a de grandes difficultés à emmener son vin vers les quartiers où on le consomme, notamment vers le quartier latin. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que la première percée sera la rue des écoles. La rue des écoles, comme par hasard, elle permet d'aller de la halle au vin au quartier latin. Elle ne fait pas que desservir la Sorbonne et le Collège de France, elle va aussi à la halle au vin, directement. Donc ces notables qui vivent du commerce, qui sont souvent aussi des propriétaires fonciers, ont intérêt à ce que les choses changent pour également rentabiliser leurs propriétés, notamment désenclaver les fonds de parcelles. Les fonds de parcelles sont peu utilisables, plus accessibles, donc il est bien évident que des rues nouvelles risquent de passer dans des fonds de parcelles, évidemment, faire de ces fonds de parcelles des morceaux qui sont sur rue et qui prennent tout à fait une autre valeur. Donc il y a des problèmes de plus-value tout à fait évidents. Alors il y a un ensemble de réflexions autour des années 1830-1840 sur la nécessité de changer les choses. Alors, cette nécessité, on l'avait perçue depuis longtemps, puisque Voltaire en parle. Donc on avait pensé à différentes solutions. La première solution, on a cru la trouver dans le plan d'alignement de la loi du 16 septembre 1807, avec ses servitudes de retrait à chaque fois que l'on démolissait une maison, donc de la reconstruire en retrait d'alignement. On a cru naïvement, sous le Premier Empire, que dans toutes les villes de France, dans les 20 ou 30 ans qui allaient suivre, toutes les maisons seraient démolies et reconstruites. C'est vraiment l'idée même qui est à l'origine d'une loi sur la servitude d'alignement, parce que si on avait imaginé que ça mettait plus de temps, on n'aurait jamais fait cette loi. Si on pensait que cette loi était efficace, c'est qu'on pensait que les servitudes seraient toutes, entreraient en action, disons, dans les 20 ou 30 ans. 10 ans, 20 ans après, on s'est aperçu que c'était beaucoup moins efficace. Et puis, même le préfet Chabrol, préfet de Paris, ingénieur des ponts et chaussées, tout à fait compétent sur ces domaines, dès 1818, commence à dire qu'il va falloir 50 ans. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on se dit qu'il va falloir un siècle. Donc, l'alignement, finalement, on va s'apercevoir qu'il est totalement inefficace. D'ailleurs, il suffit de regarder les rues de Paris pour savoir, même dans le Marais où il était pas mal appliqué, rue des Francs-Bourgeois, il y a une maison sur 20 à peu près, au maximum, ou sur 30, qui est en retrait d'alignement. Ce qui fait que l'alignement qui était fait pour régulariser la ville, la rendre mieux, plus aérée, plus régulière, l'a complètement désorganisé. L'alignement a créé des retraits qui sont autant d'accidents dans l'alignement de la voie. Donc la loi sur les alignements a été une loi dans les faits, dans la pratique de désalignement. Hein, c'est un paradoxe. Donc l'alignement échoue. On pense à l'élargissement, élargir les rues existantes. Mais il faut exproprier, et comme par hasard, quand on élargit, il faut exproprier les parties qui ont le plus de valeur, qui sont les façades et les boutiques. Et donc on s'aperçoit que les indemnités seront tout à fait énormes et que ce n'est pas un projet réaliste sans une aide de l'État, parce qu'on est toujours dans l'initiative privée. L'idée d'élargir les rues de Paris est une idée du banquier Lafitte, hein, un des plus grands banquiers de l'époque, donc le banquier Lafitte, en 1830, propose au ministère de l'Intérieur d'élargir les rues de Paris, à condition qu'on lui donne les terrains qui sont aussi derrière, qu'on puisse exproprier ce qui est derrière, pour qu'il puisse reconstruire sur les nouveaux alignements, donc sur des rues élargies, mais les rues existantes. Mais évidemment, l'investissement est tellement fort qu'il demande une subvention de l'État qui est refusée par le ministère des Finances. Donc la chose ne se fait pas. Alors, on arrive, le temps avançant et l'absence d'effet des plans d'alignement se faisant de plus en plus ressentir, on en arrive à la solution la plus radicale, qui est la percée. Donc, pour ne pas avoir réussi à faire des choses relativement douces et progressives, on est obligé d'en recourir à la forme la plus brutale, qui consiste à percer dans les centres d'îlots, cette fois. Et on a même intérêt à percer dans les centres d'îlots, parce que c'est là que le terrain a le moins de valeur et qu'on démolit le moins. D'ailleurs, Haussmann avait une très belle formule, il comparait les îlots à des pâtés en croûte, donc avec une croûte plus forte à l'extérieur qu'étaient les commerces, et il explique dans ses mémoires qu'il est beaucoup plus facile, quand on veut travailler sur un pâté en croûte, de percer la croûte perpendiculairement, de rentrer dans le pâté qui est beaucoup plus tendre, plutôt que de ne travailler que sur les croûtes à l'extérieur qui sont beaucoup plus dur. Donc cette image du pâté en croûte est tout à fait explicite et explique pourquoi on en est venu à cette solution. Alors, pour raconter la chose, disons, d'une manière plus intéressante, on va s'apercevoir que les percées dites haussmanniennes, j'y ai déjà fait allusion, si on remonte le temps, sont en fait une idée de Napoléon III. Il suffit d'ailleurs de lire les mémoires et de lire tous les textes de l'époque pour voir que tout le monde attribue ses percées à Napoléon III, que Haussmann le dit lui-même, que l'idée n'est pas de lui. Moyennant quoi, comme on le verra tout à l'heure, Haussmann a tellement assumé ses percées, et puis Napoléon III, qui était assez vélitaire, a fini par s'en désintéresser plus ou moins, et on a fini par accoler le nom d'Haussmann, qui a tout pris sur le dos, ce qui, évidemment, lui coûtera son poste de préfet avant la chute de l'Empire. Mais alors, si on remonte un peu plus haut dans le temps, on s'aperçoit que cette idée de recourir à la percée, qui est la forme la plus brutale, en fait, ne vient pas de Napoléon III du tout. L'idée de la percée est exprimée par tout un tas de gens au début des années 1840, qui sont Lanquetin, dont j'ai déjà parlé, et puis des architectes, des ingénieurs, et tout un tas de gens qui pensent que la seule solution est la percée. Quand j'ai commencé à travailler sur Haussmann au début des années 90, j'avais eu l'intuition que toute cette littérature, moi, que j'ai appelée des théoriciens de 1840, était probablement connue d'Haussmann, puisqu'il reprend leurs idées, connue de Napoléon III, pardon, puisqu'il reprend leurs idées. Moyennant quoi, je n'en avais pas la preuve, et cette preuve, je l'ai découverte plus tard, quand j'ai recommencé à travailler sur Haussmann, parce que la première fois, pour l'exposition, j'avais un délai d'un an pour faire cette exposition, donc je n'avais pas eu réellement de faire des recherches, et j'ouvre une parenthèse, mais quand on travaille sur un sujet, si on ne remonte pas aux sources, on va, en général, vers beaucoup de déconvenues. Donc, une des sources primaires pour comprendre ce qui se passait à Paris à cette époque, c'était une revue très étrange, qui s'appelle Revue Municipale, mais qui, en fait, est une revue privée des frères Lazare, qui est une revue, en quelque sorte, qu'on appellerait d'urbanisme aujourd'hui, qui paraissait tous les 15 jours, à partir des années 1840 jusque dans les années 1850, où Haussmann l'a supprimée parce qu'elle était un peu contestataire. C'est la revue des gens qui veulent que la ville bouge. Donc c'est la revue des architectes, des propriétaires fonciers, des entrepreneurs de maçonnerie, des gens qui veulent que les choses changent. Et j'ai découvert en dépouillant systématiquement cette revue, donc en la lisant les papiers qui paraissaient tous les 15 jours, que Napoléon III connaissait parfaitement tous ces théoriciens des années 1840. Non seulement il les connaissait, mais il les recevait dans son bureau et il visitait Paris avec eux. Pour se convaincre de la nécessité, par exemple, d'ouvrir la rue des écoles, les promoteurs de la rue des écoles l'emmènent visiter le quartier, et Napoléon III, il ne connaissait pas bien Paris, il avait vécu à Londres, donc il constate qu'effectivement, ces percées sont nécessaires. Donc toutes ces idées des années 1840, qui sont des idées de modernisation de la ville, et aussi typiquement Louis-Philippe, enrichissez-vous, parce que la percée c'est un mode d'enrichissement par les terrains libérés que l'on va construire. Donc ce sont des idées qui remontent au début 1840 et qui s'étaient exprimées dès le début des années 50 sous forme de pétitions. Donc ce sont des documents que j'ai trouvés dans les archives de la voirie, aux archives de Paris. On avait pensé que dans les dossiers voirie, il n'y aurait que des problèmes techniques de voirie. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi des pétitions. Et ça a été une très grande surprise que toutes les premières percées haussmanniennes, dites haussmanniennes, sont nées de pétitions des habitants des quartiers et des commerçants des quartiers. Alors on verra tout à l'heure que Haussmann était impopulaire. Toute l'historiographie nous raconte des travaux d'Haussmann totalement impopulaires. Les gravures, les caricatures de l'époque nous le racontent. Mais en fait, on verra que ce ne sont que les effets qui ont été impopulaires. Mais l'idée même de faire ces percées était populaire chez les notables. On n'a pas l'opinion publique telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui de tout le monde. Mais en tout cas, non seulement les notables y étaient favorables, mais ils ont signé des pétitions pour la rue des écoles, pour le boulevard de Strasbourg. Il y a même eu ensuite des pétitions, ça a duré pendant tout l'Empire, même au-delà. Il y a eu des pétitions pour qu'on prolonge la rue de Rivoli au-delà de la place de la Bastille à l'emplacement du faubourg Saint-Antoine. Il y a eu des pétitions pour que l'on prolonge la rue de Rennes jusqu'à la Seine d'un côté et de l'autre côté au-delà de Montparnasse, parce que les gens du 15e arrondissement voulaient profiter également de ce percement, rejoindre la gare Montparnasse et pouvoir aller dans le centre de Paris. Alors qu'est-ce qu'a fait Napoléon III? Il a fait la synthèse de toutes ces idées. Il l'a dessiné lui-même sur un plan qu'on appelle le plan colorié. Il avait dans son bureau aux Tuileries un plan de Paris qui est probablement, d'après ce qu'on en voit sur les peintures, un plan de Jacoubet, dressé par l'architecte Jacoubet, et avec un pinceau et de l'aquarelle, et selon différentes couleurs, il traçait des grands traits qui indiquaient l'urgence des travaux. Voilà, première étape, on va ouvrir ces voies-là. Deuxième étape, les autres, ainsi de suite. Donc, comme il faisait ça avec de l'aquarelle et un pinceau, on appelait ça le plan colorié. Donc, je vais passer maintenant aux diapositives. Donc voilà la première. Je vais sortir le micro. Donc là, on a un exemple de ces propositions faites par des habitants de quartier. Ici, c'est un architecte qui s'appelle Portrait,
qui associe avec beaucoup de notables du quartier latin, avec des professeurs de la Sorbonne, et donc qui propose, avant l'arrivée d'Haussmann au pouvoir, puisque cette affaire de la rue des Écoles ou du boulevard de Strasbourg se passe en 1851-1852, à une époque où Haussmann est préfet à Bordeaux. Donc il n'est responsable de rien à cette époque-là. Haussmann n'arrivera qu'en juin 53 à Paris. Portrait propose de faire partir une rue. Ici, on a l'école de chirurgie qui passe devant la Sorbonne et le Collège de France et qui prolonge, vous voyez, donc jusqu'à la halle au vin qui se trouve ici. La suivante. Alors il n'y a pas que des propositions isolées. Très, très vite, les gens vont en faire un système. Ici, c'est un ingénieur qui s'appelle Pérémont qui propose une série de percées. Là, on se situe dans les années 1840, hein, donc assez longtemps avant le Second Empire. Ici, c'est quelqu'un qui s'appelle Ménadier, dont on sait simplement un notable qui s'intéresse au théâtre, à diverses choses. Et alors on voit déjà qu'est en germe le boulevard de Strasbourg, Sébastopol, Saint-Michel, hein, la rue de Rivoli, pas tout à fait sur la même tracée, et puis des grandes croix, donc des grands tracés un petit peu théoriques, effectivement. La suivante. L'architecte de la ville de Paris, qui est un inconnu, mais qui est un personnage quand même assez important, qui s'appelle Chanteloup, il va lui aussi de ses propositions. Alors on voit les gares effectivement ici comme repère sur les plans. La suivante. Ce que propose, j'ai sûr de ne pas me tromper, on va passer la suivante un peu. Voilà ce que propose Napoléon III. Lui-même, son plan colorié malheureusement a brûlé dans l'incendie de l'hôtel de ville. On a pu vaguement le reconstituer par un exemplaire qu'il avait donné en 1867 au roi de Prusse. Mais en fait, on peut le reconstituer plus simplement quand il a nommé une commission en 1853, dite commission Siméon, pour étudier ce projet de nouveau percement. Il lui a fait une lettre programme. Il suffit de lire cette lettre programme donc pour retrouver les percées demandées par Napoléon III. Alors le boulevard de Strasbourg est déjà fait, donc on n'en parle pas. La rue des Écoles est déjà faite, donc il prolonge Sébastopol et puis propose énormément de percées dans l'Est à partir de la place de la Nation. Mais ce qui est très caractéristique surtout, c'est que ces percées sont toujours liées aux gares, c'est-à-dire que c'est cohérent avec cette idée de gare Nouvelle Porte de Paris. Donc ici on a la future avenue de l'Opéra, vous voyez, dès 1853, la rue de Rennes qui partira un peu plus par là, mais en fait là il l'amène vers la Croix-Rouge. On a Saint-Marcel pour Austerlitz, on a boulevard Diderot pour la gare de Lyon, et on a le futur boulevard Magenta pour la gare de l'Est et la gare du Nord. La suivante. Alors le travail que demande Napoléon III à la commission Siméon se traduit par cette proposition qui est légèrement différente. Elle est à l'envers, celle-là, excusez-moi, quand j'ai remis mes diapositives. Celle-là s'est retrouvée à l'envers. J'espère que ce n'est pas le cas des autres. Tant pis. Essayez. J'espère que ce n'est pas le cas des suivantes. Oh, c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. On peut se passer d'un plan, il y en a beaucoup. Vous voyez la suivante ? Encore ? Non. Là, on part dans l'autre sens, là. Encore ? Ouais, celle-là est à l'envers, la suivante. Voilà. C'est le moment, à la fin de la commission Siméon, c'est le moment où rentre en scène Haussmann. Ça, c'est une version de la peinture qui n'a pas été finalement acceptée. Le peintre a été obligé de refaire, parce que comme Haussmann est plus grand que Napoléon III, on a refait une autre peinture avec Napoléon III sur les marches de, en bas d'un escalier et Haussmann encore plus bas pour les mettre à même hauteur. Donc c'est le moment. Bon, on peut quand même pas parler de cette affaire sans parler d'Haussmann, même si son rôle est moins important qu'on ne l'a pensé pendant longtemps. Qu'est-ce que va changer Haussmann? C'est finalement, on avait simplement l'idée qu'il fallait faire ses percées, mais on ne savait pas trop avec quels moyens financiers ou techniques. On n'osait pas emprunter. Alors l'idée vient aussi un peu du duc de Persigny, qui était ministre de l'Intérieur. C'est l'idée de l'investissement productif. C'est-à-dire qu'on a 5 millions par an à dépenser pour la voie publique. Au lieu de dépenser en voie nouvelle, on va emprunter 50 millions et on va garder les 5 millions pour rembourser les intérêts. Et la dépense, on pense que cet investissement va fructifier et que les rentrées d'impôts qui vont en découler permettront de rembourser la dette. Donc c'est l'idée de l'investissement productif qui se fait par l'emprunt. Alors Haussmann va multiplier les systèmes d'emprunt. D'abord l'emprunt le plus simple, hein, on emprunte, on rembourse, mais les sommes deviennent astronomiques, 50 millions, 250 millions, 500 millions, tout le monde a peur évidemment. Donc l'idée de Haussmann, comme on ne peut pas renoncer à l'emprunt, il a l'idée de tricher. Alors il invente la Caisse des travaux de Paris, il invente les bons de délégation, où finalement la ville prête de l'argent aux entrepreneurs, mais on a l'impression que la ville n'emprunte pas d'argent, mais en fait par des opérations financières complexes l'État garantit les emprunts des entrepreneurs et en fin de compte c'est effectivement la ville qui fait l'emprunt, mais c'est caché sous forme de bons de délégation et de concessions. Je rentrerai pas dans le détail financier, et c'est ce qui a fait finalement chuter Haussmann quand on a découvert le poteau rose, hein, notamment Jules Ferry, enfin avant lui c'est le l'économiste puis repris par Jules Ferry dans son pamphlet les Contes fantastiques d'Haussmann. On découvre finalement que la ville s'est endettée, et elle s'est endettée jusqu'en gros 1914, hein. Les travaux haussmanniens n'ont été remboursés par la ville qu'à la veille de la guerre 14. Donc c'était un véritable endettement. Et il va aussi réorganiser les services. Il juge que l'administration parisienne n'est pas efficace. Donc il ne peut pas la supprimer parce que c'est une organisation des ponts et chaussées. Il ne peut pas supprimer le corps des ponts et chaussées à Paris. Il va créer une administration parallèle. Il va confier les travaux et les projets, en fait, à d'autres ingénieurs, aussi des ponts et chaussées, mais les siens. Belgrand qu'il a connu à Bordeaux, Alphand qu'il a connu à Bordeaux, Belgrand qu'il a connu à Auxerre également, où il a été préfet. Donc il fait venir ses hommes à lui. Haussmann aime bien les gens qui obéissent. C'est le cas de ces ingénieurs-là qui ont l'habitude de travailler avec lui, qui lui sont soumis en quelque sorte, mais qui vont se révéler extrêmement brillants, extrêmement efficaces. Et les ingénieurs des ponts et chaussées officiels ne feront que signer finalement sur ordre. Il fait dessiner un nouveau plan de Paris parce qu'on ne peut pas faire des nouvelles percées et faire des expropriations si on n'a pas un fonds de plan cadastral qui n'existait pas pour Paris. Hein, Paris était la seule ville de France qui n'avait pas de cadastre. Elle en a un seulement depuis quelques années d'ailleurs. Le plan du service de la ville de Paris n'est pas un véritable cadastre. La suivante. Alors, nous allons maintenant rentrer dans les procédures. Alors, la procédure, la première, c'est l'expropriation. Ensuite, la démolition, la voirie, les égouts, les services, le lotissement, la reconstruction. Alors, l'expropriation, c'est vraiment la partie par laquelle tout commence. Et d'ailleurs, c'est la seule sur laquelle Haussmann est une autorité. Hein. En fait, si on regarde les choses de près, les percements sont autorisés par le ministre de l'Intérieur, qui en a légalement la charge. Haussmann ne peut que lancer les enquêtes parcellaires qui permettent de déterminer les expropriations. Alors on va voir rapidement un certain nombre de documents. Ici c'est pour la rue des Écoles. On a donc ici la Sorbonne et le Collège de France. Donc on voit ce que l'on prévoit comme expropriation pour pouvoir percer ici la rue de Rivoli qui passe donc à cet ordre-là, vu qu'on laisse une petite place devant. La suivante. Le Collège de France, pardon, excusez-moi. Et puis on en profite pour, vous voyez le Collège de France qu'on retrouve ici, donc voilà, elle est percée ici avec quelques des îlots, et on s'aperçoit qu'en général il y a des plans collatéraux en quelque sorte, où on prévoit d'élargir ou d'ouvrir des rues absolument tout autour. La suivante. Donc après la rue des Écoles, le boulevard de Strasbourg, tout ce qui est en rose, c'est ce qui est prévu pour l'expropriation. La suivante, je profite de Strasbourg-Sébastopol pour montrer une étape dont je ne reparlerai pas parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails, qui est le plan d'aménagement proprement dit. On prévoit les trottoirs, la fontaine, ici c'est le boulevard Sébastopol, l'arrivée sur la place du Châtelet. Donc on prévoit l'emplacement des arbres, tout est absolument dessiné sur ce plan qui fait partie de la série des plans d'alignement, puisqu'il fallait donner à chaque candidat à la construction un plan d'alignement, un plan de nivellement, un plan de raccordement de réseau. La suivante, ici c'est le percement pour le boulevard Magenta, nous sommes ici actuellement. La suivante, donc vous voyez les expropriations quand même relativement importantes. Ici encore Lafayette, ici un peu plus haut, percement de la rue Lafayette, vous voyez tout ce qui est en rose et ce qui va être exproprié. La suivante, ici le boulevard Saint-Germain avec le percement de la rue de Rennes, le boulevard Saint-Germain, le dégagement de l'église Saint-Germain-des-Prés. Alors on profite évidemment de ces percées pour dégager des monuments parce que c'est la théorie qui prévaut à l'époque. La rue Saint-Dominique, elle, c'est une exception, c'est simplement un élargissement. D'ailleurs, on remarquera, si on est attentif au boulevard Saint-Germain, dans toute cette partie, on verra qu'ici, on a des immeubles haussmanniens et qu'en face, on a des immeubles plus anciens, parce qu'ici, on a gardé l'aliment ancien. On a donc exproprié et détruit que de l'autre côté. La suivante. Voilà un autre plan d'expropriation, donc de la petite placette qui se trouvait devant l'entrée de l'église, donc pour ouvrir le boulevard Saint-Germain et la rue de Rennes. La suivante. Deuxième étape, les démolitions. Là, donc, une photo du chantier de la démolition de l'Opéra, de l'avenue de l'Opéra. Alors, quand on regardera tout à l'heure un plan, on verra qu'effectivement, les démolitions sont relativement réduites par rapport à l'échelle de l'ensemble de la ville. Mais quand même, c'est extrêmement traumatisant pour les Parisiens que de voir disparaître et des quartiers entiers. D'en avoir l'impression en tout cas, et puis quelquefois il faut creuser parce que à l'emplacement de l'avenue de l'Opéra il y a la butte des moulins, donc il faut araser, vous voyez la butte des moulins. D'ailleurs on s'aperçoit quand on prend la rue Sainte-Anne qu'on monte pas mal très rapidement, donc il y avait, vous voyez, l'avenue de l'Opéra, et maintenant à ce niveau là les rues de ce quartier se retrouvaient à ce niveau là avant les travaux, donc des travaux extrêmement importants qui engendrent du bruit, de la poussière. Évidemment des déménagements avant de démolir, on déménage. La suivante, d'ailleurs une maquette que j'avais fait faire en 91, le maquettiste qui avait la même idée que tout le monde a sur les démolitions dites haussmanniennes a beaucoup trop montré de démolitions, il y en a beaucoup moins. On a démoli ici, on a la rue Saint-Martin, ici la rue Saint-Denis. On a démoli, ici c'est donc la future boulevard Sébastopol. On a démoli jusqu'ici, ici on n'a pas démoli du tout ici. Hein. Mais le maquettiste, j'ai essayé d'expliquer plusieurs fois qu'il allait beaucoup trop loin. Mais bon, c'était son idée de la chose et il n'y a rien eu à faire. La suivante. Alors, ces démolitions ont permis des dégagements de monuments, on en verra d'autres, des découvertes archéologiques, on en a profité pour redégager les arènes de Lutèce en ouvrant la rue Monge. La suivante. On a dégagé l'église Saint-Médard, qui autrefois était complètement prise dans des bâtiments, donc on a établi ici une petite placette, un square. Donc tout ça a été jugé comme positif pour la plupart des gens. Il faut comprendre que les travaux de cette époque ont été critiqués à cause des déménagements, de la montée des loyers, et en amont du bruit, de la poussière, mais que tout le monde était d'accord sur ces percées. Il n'y a aucune critique de fond sur les percées. Et même les archéologues qui ont protesté relativement peu sur la démolition que quelques bâtiments, mais il n'y en a pas eu de majeurs ou considérés comme majeurs à l'époque, ils l'ont été. Aucune église majeure n'a été détruite. Se sont même réjouis de voir le dégagement des monuments, ce qui permettait de voir, par exemple, la façade, le flanc sud de l'église Saint-Médard qui était caché. La suivante. Donc voilà l'ensemble de ce réseau de percées qui est quand même tout à fait impressionnant. La suivante. Redessiné par Alphand à l'occasion de l'exposition de 1889, la suivante. Et là, un état, si vous voulez, qui montre ce qui s'est fait en régie, en concession. Alors, j'ai pas trop le temps de rentrer dans le détail, mais ce qui est en bleu est en régie, directement par la ville de Paris, parce que la ville de Paris espérait trouver des concessionnaires, mais il s'est trouvé que les premiers concessionnaires ont fait faillite. L'opération, l'investissement était beaucoup trop lourd par rapport à sa rentabilité, donc la ville a été obligée de faire en régie tout ce qui est en bleu, parce qu'elle ne trouvait pas de clients pour les concessions, elle ne trouvait pas d'entrepreneurs pour le faire. La suivante. Donc on a toujours dit que les gens avaient spéculé, que ces concessions étaient extrêmement fructueuses. Si ça l'avait été, la ville n'aurait pas été obligée d'en faire la moitié en régie si elle avait trouvé des entreprises pour le faire. Pour entrer un peu plus maintenant dans l'architecture qui a résulté de tous ces travaux, on peut prendre l'exemple très caractéristique de l'opéra, pour lequel on a dessiné la place avant le monument, hein, qui est une opération extrêmement intéressante. On a tendance aujourd'hui à penser édifice public et à négliger un peu l'environnement urbain, de plus en plus, même d'ailleurs, je trouve, assez paradoxalement. À cette époque, la première chose que l'on fait, c'est de prévoir un projet urbain, et le bâtiment qui est donné au concours, son contour est délimité dans le règlement du concours. Et on va même donner les façades, la suivante. Quand on lance le concours en 1860, auparavant, l'architecte Rode Fleury a dessiné les façades qui seront réellement construites des immeubles qui sont autour. C'est-à-dire que les concurrents, Garnier compris, connaissent déjà les façades qui seront autour, qui ont été terminées avant le projet de monument, on leur demande de faire des alignements de hauteur de corniche en relation avec les immeubles, ce qui s'est effectivement fait, on le voit sur l'image suivante, puisque les hauteurs ici des balcons correspondent, les hauteurs d'immeubles correspondent à peu près à ce premier niveau de l'opéra, donc une première, une corniche qui est un rapport avec les immeubles environnants. La suivante. Je vais passer rapidement quelques plans qui détaillent un peu le mécanisme de la percée. Donc, on exproprie, on ouvre une voie, la suivante. Et puis ensuite, une fois que la voie est ouverte, tous ces terrains qui ont été expropriés par la ville de Paris, qui devient propriétaire de tous les terrains, sont revendus, en général par adjudication, à des propriétaires donc qui vont bâtir des maisons dessus après lotissement. Donc la ville de Paris dessine un lotissement que l'on voit ici. C'est un gigantesque lotissement linéaire, donc dessiné par Eugène Deschamps, qui était l'architecte qui s'occupait du plan de Paris, et ensuite qui sont vendus donc à des propriétaires pour bâtir, mais avec un règlement assez souple, contrairement à ce que l'on croit. Moi, j'avais toujours entendu parler, avant de travailler sur Haussmann, d'un règlement qui faisait que tous les immeubles haussmanniens se ressemblaient. Quand j'ai commencé à travailler sur Haussmann, j'ai cherché ce règlement, je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi je ne l'ai pas trouvé? Parce qu'il n'existait pas. La suivante, l'avenue de Paris. Alors, un autre dessin du résultat final. La suivante. Les travaux d'expropriation autour de l'hôtel de ville, de la place de l'avenue Victoria, du Châtelet. Là, ce sont les opérations les plus lourdes. La suivante. Le croisement Saint-Germain, Saint-Michel. Alors, ce sont les endroits, effectivement, où les expropriations iront le plus en profondeur, puisqu'on prévoyait déjà à l'origine la rue Dante pour des raisons de symétrie, comme on le verra sur une autre image. La suivante. Le quartier des Halles, mais ça, bon, il fallait bien reconstruire les Halles. La suivante, la cité, c'est vraiment l'endroit où vraiment, je pense que la mesure n'a pas été gardée. On a vraiment détruit pratiquement la seule chose qui reste de la ville ancienne, c'est cette partie. On a vraiment rasé, à part Notre-Dame et le Palais de Justice, on a rasé toute l'île de la cité. La suivante, comme on va le voir également sur notre image, oui, elle s'est bien retrouvée en place, pardon. Donc avant, dans le plan de la Grive au XVIIIe siècle, et si vous voulez, après implantation de l'Hôtel Dieu et des extensions du Palais de Justice. La suivante. Donc voilà une image, là. Si on met à part l'Opéra ou l'Hôtel de Ville ou la Cité, les opérations les plus courantes sont celles qui sont beaucoup plus linéaires. On a ici donc la rue Lafayette, dont je dis entre parenthèses que son tracé ne dépend pas de l'opéra, vu que le premier tronçon de la rue Lafayette a été percé en 1825. Et c'est peut-être à l'inverse, parce qu'on avait cette rue Lafayette que l'on pensait prolonger, qu'on a choisi l'opéra pour le mettre là. Là aussi, c'est une idée reçue qui s'est avérée fausse. La rue de Maubeuge, ainsi de suite, la rue de Châteaudun. Donc des destructions quand même, dans les, sauf certains quartiers plus à l'extérieur, relativement limitées. La suivante. Voilà, donc j'évoquais les lotissements. Ici, c'est le lotissement des documents qui sont à la ville de Paris. La documentation foncière de la ville de Paris, voilà, le projet de lotissement pour l'avenue boulevard Beaujon, la suivante, qui est devenue Haussmann. Et alors voilà, je commençais mon petit discours tout à l'heure. Donc il n'y a pas de règlement. Si les immeubles haussmanniens se ressemblent tous, il y a deux raisons. Il y a au départ un certain encouragement, mais la seule chose qui est dit dans les contrats de vente, parcelle par parcelle, qui était signée toute par Haussmann. Je suppose qu'il est signé en série et que le notaire venait dans son bureau lui faire signer toutes ses ventes. Mais Haussmann a signé toutes les ventes, des milliers. Et dans chaque contrat de vente, on disait que les lignes devaient filer. C'est-à-dire que les lignes de... Mais il n'y a pas plus que ça. Et que si on ne peut pas accorder les façades entre elles, on met des pilastres à chaque côté de chaque façade pour bien la séparer. Si on ne peut pas les relier, on les sépare. Et c'est la seule chose qui est dite. Et pourquoi... Pourquoi les immeubles haussmanniens se ressemblent tous? Tout simplement parce que c'est un consensus entre architectes, c'est la typologie du moment, qui ne naît pas comme ça d'un coup, hein, qui découle de l'immeuble Louis-Philippe, qui lui-même découle de l'immeuble Restauration. Donc on est arrivé à l'immeuble haussmannien par un processus, disons, d'évolution et de maturation de la pensée architecturale et d'un consensus entre architectes et candidats à la construction et propriétaires, donc sans règlement. Là donc on a un de ces nombreux contrats notariés, malheureusement qu'il faut aller chercher chez les notaires, ils ne sont pas rassemblés, ils sont dispersés chez tous les notaires parisiens. La suivante. Voilà donc ce résultat qui n'est arrivé de manière aussi uniforme que dans quelques endroits où il était imposé, et c'est effectivement le cas dans ce quartier puisqu'on avait le schéma de Rue de Fleury, où c'est arrivé comme ça aussi, avenue Victoria, ou face au Louvre, face à la colonnade du Louvre, ce sont les deux ou trois endroits pour lesquels un dessin a été, une ordonnance a été dessinée et imposé aux propriétaires. On n'a pas simplement dit aux propriétaires, il faut que les lignes filent, on leur a donné le dessin de la façade qu'ils devaient construire. Mais ça, c'est une chose qu'on avait fait couramment au XVIIIe siècle. La suivante. On arrive dans les dernières. Il faut changer de panier. Pour terminer, donc quelques images sur le résultat urbain. Alors, des rues droites, comme on n'en avait jamais vu dans Paris, puisque les rues les plus longues, comme la rue Saint-Denis ou la rue Saint-Martin, étaient quand même très tortueuses. La rue Rambuteau, ouverte sous le préfectorat de Rambuteau, était quand même relativement courte. Elle n'allait pas jusqu'à la rue Elle ne prenait que la rue des Rambuteaux proprement dite et pas ce qui s'appelle rue des Francs-Bourgeois. La suivante. Évidemment, la plus célèbre, l'avenue de l'Opéra. Mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'avenue de l'Opéra n'a pas été percée pour l'Opéra, vu que la décision de l'avenue de l'Opéra a été prise, elle, en 1854. On ne savait encore pas du tout qu'on déboucherait sur l'Opéra. L'objectif était d'aller de la Seine et du Louvre jusque dans le quartier de la Chaussée-d'Antin, qui était le quartier le plus riche, le plus huppé de Paris. Et c'est donc pour ça, à cause de l'avenue de l'Opéra et à cause de la rue Lafayette, que l'on a placé l'Opéra à cet endroit-là, et non l'inverse. La suivante. Alors, il y a quand même quelques compositions, mais les compositions ne sont jamais des figures régulières imposées a priori. À chaque fois, on utilise l'asymétrie pour régulariser. Vous savez que la vertu de l'asymétrie, c'est on prend une figure irrégulière, on la multiplie par deux par rapport à un axe de symétrie, et on se retrouve avec une figure régulière. La symétrie fabrique de la régularité avec de l'irrégularité. Là, on en a le cas donc avec le boulevard Voltaire, si je ne me trompe. Ici, on avait l'avenue Parmentier. Donc, pour raccorder la figure, et on profite souvent aussi des positions un peu privilégiées de ces carrefours pour mettre des monuments. Donc, ici, une mairie. La suivante, on en verra deux autres exemples. Le très caractéristique, le boulevard Saint-Michel. On ne pouvait pas percer le boulevard Saint-Michel dans l'axe du pont Saint-Michel. Il y avait un problème d'impossibilité. Donc, on s'est retrouvé avec un coude. Donc, pour rétablir la symétrie, on a prévu de percer la rue Dante, qui ne servait à rien, vu qu'elle arrive au boulevard Saint-Germain comme le boulevard Saint-Michel, elle ne sert strictement à rien. C'est simplement pour faire la symétrie. Et à partir du moment où on construit la symétrie, il faut la renforcer et masquer en même temps cette opération un peu artificielle, et on met une fontaine. Donc c'est un type d'opération extrêmement caractéristique. La suivante, on a refait exactement la même chose pour le boulevard de Malesherbes, qui ne pouvait pas monter ici parce que la pente était trop forte. Donc on l'a fait dévier à gauche pour éviter le relief. Donc on se retrouvait avec un boulevard Malesherbes avec un coude. Et pour faire oublier le coude, on s'est dit on va faire quelque chose ici. Et comme il y avait le nouveau quartier de la Plaine Monceau, il fallait une nouvelle église. Donc on demande à Baltard, architecte de la ville de Paris, architecte en chef de la ville de Paris, de construire Saint-Augustin. Donc nous allons maintenant terminer sur la fin de Haussmann et les suivantes. Il reste quelques images. Alors évidemment, Haussmann a chuté sur des problèmes financiers, personne ne lui a réellement reproché son œuvre, sauf le jour où on a découvert le trou financier, évidemment. Napoléon III, un peu lâchement, s'est débarrassé de son préfet qui n'avait fait qu'exécuter les ordres. Enfin, ça, c'est un classique. Donc Haussmann, évidemment, n'a pas bien compris pourquoi Mademoiselle Lutèce ne l'appréciait pas davantage. La suivante. Il considère qu'elle est ingrate. Alors l'image la plus répandue, c'est d'Haussmann démolisseur et Haussmann avec ses magouilles de la Caisse des travaux de Paris. La suivante. Dernière image. Malgré la chute d'Haussmann et malgré la mauvaise image apparente de ses travaux haussmanniens, l'haussmannisme s'est quand même répandu en province, à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, dans énormément de villes. S'est prolongé à Paris même par de nouvelles percées, boulevard Raspail, par exemple. Donc on a continué l'œuvre haussmannienne, et puis on a même imaginé, pour conclure, qu'Haussmann allait aller en Turquie et faire des percées dans Constantinople. On voit ici une image de Constantinople avec cette idée que l'osmanisme allait se répandre dans le monde, ce qui n'a pas été le cas vraiment, puisqu'en fait il y avait quand même une spécificité parisienne. L'osmanisme a été inventé pour résoudre le problème de Paris et ne pouvait être difficilement applicable que dans des très grandes villes historiques avec un centre ancien très encombré. Donc il a pu s'appliquer un petit peu en Italie, mais pas au-delà. Voilà, je vous remercie.
Ça va, là, vous m'entendez ? Bon, je ne chercherai pas à vous convaincre. Je vais seulement faire entendre une voix extérieure à cette compagnie des experts qui me convie à m'exprimer. Je vais aborder les points suivants. Quelques cas de désordre couramment rencontrés dans les maisons parisiennes ordinaires, notamment ceux qui sont consécutifs à des reprises défectueuses. La pathologie des reprises nous offre malheureusement un vaste et triste témoignage des carences des professionnels du bâtiment. Ensuite, je ferai quelques commentaires sur un tableau comparatif qui est tiré du livre que j'ai fait sur les maisons de Paris et qui fait un bilan, qui essaye de faire un bilan entre les maisons pré-industrielles et les maisons industrielles du logement de masse réalisé après 1950. Ensuite, je donnerai un très bref aperçu des types courants de maisons de Paris. Et si j'ai le temps, j'esquisserai les principes et méthodes d'intervention sur le bâti ancien. Alors, pour commencer, je suis obligé pour qu'il n'y ait pas de mépris sur mes propos, il faut que j'établisse une différence entre bâti pré-industriel et bâti industriel qui n'apparaît en France qu'après 1950. Contrairement à des idées communément acceptées, qui sont défendues par une quantité d'historiens, la plupart des architectes et naturellement les personnels du ministère de la Culture, la notion de patrimoine du XXe siècle n'a aucune cohérence. L'ossature métallique date du milieu du XIXe siècle. Le béton armé date de la fin du XIXe siècle et il va rester mis en œuvre de façon artisanale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale marque une coupure effective dans les programmes, par exemple les habitations à bon marché, mais pas dans le mode de production du bâti. Ni même dans les règlements d'urbanisme municipaux ou nationaux. L'entre-deux-guerres, c'est une période de transition caractérisée par un très faible volume de construction et une quasi-stagnation technique dans le secteur du bâtiment. La Seconde Guerre mondiale, elle, va marquer par ses conséquences une véritable rupture, qui ne va être effective qu'après la première reconstruction, c'est-à-dire environ 1950, et ça tombe bien, c'est le milieu du siècle, qui va être le début d'une période d'industrialisation massive, nationale, des entreprises du bâtiment, mais menées par celles des travaux publics, promues et soutenues par l'État français, et cette industrialisation va se réaliser dans un temps très court. Alors, l'industrie, comme mode de production, a ses premiers développements au Moyen-Âge. Mais quand on parle d'ère industrielle, ça signifie que c'est le facteur économique principal qui façonne le mode de vie. Et en particulier la division technique et sociale du travail. Alors, il ne faut pas confondre l'arrivée sur le marché de matériaux industriels, comme le fer industriel, la fonte, l'acier, le verre, aux alentours de 1850, enfin pas pour l'acier, et l'industrialisation des entreprises de construction, qui n'est effective donc qu'un siècle plus tard, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a une première mutation, donc il va y avoir deux mutations en moins de 50 ans, ce qui est énorme dans l'évolution du bâtiment, qui est caractérisé toujours par sa lenteur. La première mutation, donc 1950, elle marque la fin effective de la période pré-industrielle. Nouveau mode de financement, nouvelle organisation des entreprises, nouvelle division du travail, bureau d'études, réforme de l'apprentissage, introduction massive d'un béton armé nouveau de genre industriel basé sur le panneau lourd et le coffrage outil, et une mécanisation de la plupart des engins de chantier. 20 ans suffiront. Bon, il faudrait ajouter d'autres conditions dont je n'ai pas le temps de parler. La seconde mutation, celle-là, elle est plus récente, elle va être encore plus courte que la première. Elle n'est pas tout à fait terminée. C'est dans les années 80-90. Et ça va avoir une incidence dans le traitement du patrimoine ancien, vernaculaire, dont je vais parler après. Alors voici les conditions qu'on observe depuis cette date. 3 entreprises dominent le marché et ont racheté une centaine d'autres pour apparaître dans les appels d'offres pseudo-concurrentiels, sous le nom des anciennes entreprises qu'elles ont acquises. Il s'agit de Vinci, Eiffage, Bouygues, dites les trois grandes, qui sont régulièrement célébrées comme des championnes à l'exportation. 3 multinationales qui produisent les principaux matériaux de construction. Lafarge, premier cimentier mondial, Arcelor, sidérurgiste, Saint-Gobain, Pont-à-Mousson, qui fait des produits de seconde œuvre, bon, vitrage, canalisation, isolant, mais il a quasiment le monopole aujourd'hui de la distribution des matériaux de construction sur tout le territoire français. Ensuite, après, il y a des milliers de petites entreprises, plus ou moins qualifiées, à durée de vie en général courte, qui pratiquent le plus souvent la faillite en cas de contentieux ou de gestion financière défectueuse. Maintenant, il y a une mutation de la maîtrise d'ouvrage. Elle est devenue majoritairement institutionnelle, publique ou parapublique, municipalité, etc., etc., régie immobilière. Elle décide presque, pratiquement seule, du cadre juridique et financier, des règlements d'urbanisme, des normes, des permis de construire, et même du choix et de la conception des infrastructures. Alors, cette maîtrise d'ouvrage, qui est juge et partie, est fortement liée aux cycles électoraux, voire les affaires. Mais toutefois, aujourd'hui, l'État et les municipalités sont entrés dans un long tunnel de très fort endettement, proche de la banqueroute, en dépit des discours des officiels de tous bords. Mutation dans l'assurance, qui couvre les risques de la construction. La loi Spinetta, obligation du bureau d'études, du bureau de contrôle technique, pardon, et l'assurance dommage ouvrage. Le même risque est assuré 3 fois par l'entrepreneur, par l'architecte et par le maître d'ouvrage, sans baisse des primes d'assurance, bien entendu. Fallait le faire. Bon, maintenant, il y a, évidemment, on en parle beaucoup, une insertion dans une économie globale qui accentue les effets, les caractères structurels du bâtiment, notamment les cycles en dents de scie de la spéculation immobilière et une très forte main-d'œuvre immigrée dans le bâtiment. Il y a aussi des nouveaux risques majeurs, par exemple inondations répétées dans les zones abusivement déclarées constructibles, etc., etc. Et je dirais aussi les nouveaux dangers consécutifs à un terrorisme diffus. J'en parlerai pas en public, mais il y a une extrême vulnérabilité de certains procédés techniques de pointe. Bon, maintenant, le secteur de la construction est en dépendance croissante avec les énergies fossiles. L'urbanisation nouvelle suburbaine, qui est dispersée sur les axes routiers et de faible densité, est totalement assujetti au déplacement automobile. Les dépenses de chauffage suivent directement maintenant les cours mondiaux du pétrole. Bon, en plus que la plupart des dérivés de l'industrie du pétrole et du verre donnent des produits du bâtiment, produits verriers, joints de construction, isolations diverses. et leur part dans le coût augmente sans arrêt. Sans compter que le ciment et l'acier incorporent une très grande quantité d'énergie nécessaire à leur fabrication. Lafarge est le premier client d'EDF. Alors, la formation des professionnels de l'exécution, elle se fait par exclusion. Ne rejoignent aujourd'hui le bâtiment dans l'exécution que ceux qui n'ont pas pu aller ailleurs. Et parmi eux, le maçon se retrouve au plus bas de l'échelle. Alors que ce dernier métier demande une très grande qualification, qui malheureusement n'est pas de type industriel. Au stade de la conception, aucune sélection à l'entrée des écoles d'architecture ou l'enseignement de masse imposé par la tutelle et pleinement accepté par le corps enseignant ne contribue pas à l'élévation du niveau des compétences. L'ordre des architectes, national ou régional, gère ses intérêts à très court terme et négocie habituellement en sous-main avec les pouvoirs publics le très dur passage au mode de production industriel, qui dans la plupart des cas se passe fort bien de l'architecte d'exercice libéral, de simples salariés diplômés suffisent, et dans bien des cas on peut se passer de l'architecte tout court. Les politiques qui se sont succédées à l'ordre depuis sa fondation en 1940 montrent un échec pour élever le niveau de compétences techniques. La persistance d'un discours velléitaire et pleurnichard implorant l'aide de la bureaucratie tutelle. Dans une tentative qui est impraticable et même peu reluisante d'imposer le service des architectes. Bon, rarement on a assisté à une fuite dans l'informatique et même, je dois le dire avec regret, à un certain avilissement du goût. Dont nous avons dans ce lieu un triste exemple. Qu'est-ce que vous diriez si l'entrée ou la salle d'assemblée de l'ordre des avocats était jonchée de seringues usagées? Bon, je dirais que à ceci, Il y a des traits particuliers qui s'ajoutent, en dehors de la crise du logement en persistance, l'obsolescence du stock de bâtiments construits dans les années 70-90. Que ça soit le logement dit social, voire les nombreuses réhabilitations ou destructions programmées, les bâtiments scolaires universitaires, les bâtiments de bureaux, l'hôtellerie, pas plus de 10 ans, le cycle. Et cette obsolescence est loin de réduire son emprise. Bon, le dernier point, avant que je vous montre des cas, qui va concerner mon collègue Pinon, je dirais que dans le monde du bâtiment, on constate le plus souvent une ignorance généralisée de l'histoire des faits bâtis. Les ingénieurs du bâtiment sont ahistoriques. L'histoire n'existe pas. Seuls sont à considérer les performances techniques. Les générations récentes d'architectes sont pour la plupart coupées du passé. Elles sont déracinées. Elles sont étroitement progressistes. Et un virus spécial les ronge. L'obligation d'être absolument créatif, avec un grand K, en complète rupture avec toute tradition. L'histoire de l'architecture ordinaire s'ébauche à peine en France par rapport à nos voisins. Malheureusement, elle se fait le plus souvent selon les périodes de l'architecture, les mêmes périodes que l'architecture monumentale, ce qui est démenti par l'observation des faits. Le plus souvent, c'est de l'architecture historienne, de l'histoire historienne, c'est-à-dire stylistique, sans véritable lecture morphologique, ni de la composition spatiale ou de celle des ouvrages de construction. Peut-être avec une exception du gothique canonique, voire Viollet-le-Duc. Bon. Maintenant, il y a une chose beaucoup plus importante, à mon avis, c'est l'ignorance de l'évolution du goût dans l'histoire. Les Français baignent dans une esthétique de la fonctionnalité, notamment du produit industriel. Cette esthétique est apparue il y a environ 80 ans, on ne peut pas dire qu'elle est nouvelle, et elle continue à produire une quantité de destruction massive, de conduire à des reconstructions coûteuses, à toutes sortes de contorsions mentales, sauf aux simples et modestement fonctionnels. On parle encore, dans l'intelligentsia architecturale, du concept éculé de modernité, comme une hypnotisante nouveauté. C'est d'autant plus pitoyable que maintenant, la modernité dont on pourrait parler est imposée par en haut, par l'industrie de la culture et des loisirs. Et on continue à confondre moderne, modernité, industrielle, de même que composition et création. Il faudrait se demander pourquoi la coupure entre tradition et modernité qui a été tant souhaitée par les anciennes avant-gardes du premier tiers du XXe siècle, qui se proclamaient révolutionnaires, est maintenant voulue par les gestionnaires même de notre société. C'est un singulier retournement. Est-ce que nos gestionnaires seraient-ils devenus révolutionnaires? Bon, je m'arrêterai là, mais ça c'est très important pour voir les conditions dans lesquelles le patrimoine d'aujourd'hui est maintenu. Alors, je vais prendre principalement deux exemples. Les planchers traditionnels en bois parisiens, les plus abondants, qui sont des planchers d'assemblage dits à enchevêtrure, et le pan de bois enduit. S'il vous plaît. Alors, voilà. Tiré du Blondel et Pattes, hein, un plancher enchevêtrure, un système d'enchevêtrure, et on voit que l'enchevêtrure, c'est-à-dire le chevêtre, dit aussi l'insoir dans certains cas, est systématisé. Abondance de traînées, cheminées, contre-cheminées, et bien entendu, décharge les baies de la pluie des planchers.
Je vais baisser du micro. Pardon.
Suivant. Voilà. Ça, c'est un peu plus tard, hein. Toussaint, 1820, qui représente Jacques. Un plancher chevêtrure, et là, incorporé dans les entrées de communes.
Est-ce que vous entendez assez au fond? Excusez-moi. Bon.
Jacques, je crois que.
Bon, vous m'entendez là? Oui, bon. Donc, le plancher enchevêtrure, le premier était tiré du Blondel et Pattes, cours d'architecture, fin 18e. Et là, celui-ci est tiré de Toussaint. Début 19e. Suivant. En voilà un, relevé, rue François Miron. Vous voyez, enchevêtrure partout, et c'est lié naturellement à la fois aux baies et à l'importance des conduits de cheminée qui vont se cumuler vers le haut. Suivant. On voit là un exemple type au XVIIIe siècle. Et même ce plancher qui travaille principalement au cisaillement et pas à la flexion, il y a peu de flèches, permet de faire des transferts structuraux de très grande importance. Ici, sur les deux planchers hauts du rez-de-chaussée, il y a 4 étages, 5 étages, plus un étage de comble qui sont transférés. Chose tout à fait courante dans le type du XVIIIe siècle. Suivant. Voilà, relevé une minute, rue Tronchet. Vous voyez que le plancher en chevêtrure est également systématisé. C'est le plus abondant depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. On pourrait même dire jusqu'à la guerre de 14. Suivant. Vous voyez, voilà les enchevêtrures. Hein. Tirant et ancre, étrier, chevêtre, etc. Suivant. Voilà un autre. Hein, 18e. La démolition, rue Saint-Denis. Suivant. Voilà l'assemblage de base, tenons et mortaise avec renfort chevillé, et absolument pas un assemblage à mi-bois, comme on entend souvent. Suivant. Le voilà le même, il n'y a qu'à se pencher pour ramasser. Bon, suivant. Voilà, alors il y a des problèmes de gers. Voilà également l'aubier, qui n'est pas du tout infesté par les termites, comme on dit. C'est la grosse vrillette qui reste environ 5 à 10 ans, qui s'envole après, et ce n'est pas l'invasion des termites. Suivant. Suivant, s'il vous plaît. Voilà le détail type. Vous voyez en rouge les étriers, tirant et ancre. Le linsoir, le faux linsoir, la solive d'enchevêtrure, etc. Ce plancher, c'est un plancher, on l'appelle aussi plancher creux d'appartement. Il y a des ogets qui sont indissociables du plafond en dessous et qui participent de la structure puisqu'ils entretoisent les solives. Aujourd'hui, très souvent, on les voit déposés. Suivant. Voilà encore pour un type pré-haussmanien, mais disons 1840 type, le plancher en chevêtrure systématisé. D'ailleurs, vous remarquerez que, à part le mur de façade et les murs mitoyens, tout est en pan de bois. Et, bien entendu, les murs qui reçoivent les conduits de fumée. Le pan de bois a duré jusqu'en 1914, même dans les quartiers bourgeois qui pensent avoir de la pierre de taille partout. Suivant. Voilà vu de dessus, hein, on voit les ogets. Suivant. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est dégarnir un plancher pour faire apparaître un bois qui est simple, grossièrement équarri, qui n'a jamais été conçu pour être apparent. On perd toute l'isolation acoustique, thermique, etc., etc., et la stabilité. Suivant. Vous voyez que les solives courantes ici de sillage vont se déverser, c'est-à-dire se tordre sous la charge, si on enlève les ogets. Suivant. Voilà ce qui se passe. Suivant. Bien entendu, l'aspect ornemental du plancher indissociable de l'ogée est visible ici. Ça sera remplacé par du carton plâtre. Suivant. Ça se répare. Je ne vais pas dire que c'est une excellente réparation, ça, mais néanmoins, c'est tout à fait faisable aujourd'hui, et ça se fait d'ailleurs si on veut le faire. Suivant. Et même aujourd'hui, il y a des systèmes de plancher avec du bois canadien qui systématisent également ce système. Hein. Vous voyez, linsoir, lambourde, etc., avec des étriers métalliques et des profilés industriels suivants. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Déposer un plancher ancien, le remplacer par des poutres alourdies en béton armé et changer le sens de portée. Un mur qui était non porteur va devenir porteur. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des tassements et même des fissures entre porteur et non porteur. Suivant.
Là, vous voyez un plancher ancien, poutre à la française, vu de dessus. Alors, vous voyez, on voit des flèches importantes, des solives. Alors, il y a le problème de la recharge. Suivant. Vous voyez, ou de la flèche. Là, vous avez au moins 10 à 15 cm au point bas. Suivant. Eh bien, ça, c'est ce qui arrive quand on... Il y a une flèche, on recharge. Il y a une nouvelle flèche, on recharge. Il y a une nouvelle flèche, on recharge. C'est le raisonnement cartésien, bien connu. Et ça se termine comme ça. Suivant. Là, voilà ce qu'on voit couramment. Hein, des solives coupées pour faire placer, pour faire passer. Alors, elles ne tiennent pas par l'opération du Saint-Esprit. Elles tiennent, elles sont accrochées à la chape. La chape n'est pas une dalle, ça s'appelle une chape, qui sert de répartition des charges d'exploitation au-dessus. Suivant. Celui-là est intéressant, là. Carrément coupé, carrément coupé. Savez-vous où ça se trouve ? Ici même. Ici même, dans l'aile de logement, et c'est une des pratiques de l'entreprise. Suivant. Voici ce qu'il ne faut pas faire non plus, c'est placer des cloisons fissurables sur des planchers élastiques. Et bien entendu, il ne faut pas s'étonner que, au bout de quelques semaines, parfois, ça se fissure. En général, même avec des flèches du 4 centième, on doit avoir des cloisons de type non fissurable. Le carreau de plâtre, c'est ce qu'il y a de plus fissurable. La brique creuse enduite l'est beaucoup moins. Suivant. Voilà de la petite charcuterie de bas étage, très fréquente. Suivant. Voilà, alors là, des insertions de béton armé dans un plancher en bois. Imaginez qu'on vous coupe l'œsophage et qu'on remplace ça par un tube en cuivre. Suivant. Là, c'est un petit chef-d'œuvre. Vous avez une nouvelle poutre incorporée là-dedans, avec un transfert sur un profilé métallique. Je ne parle pas du décor. Oui, c'est mixte. Suivant. Là, pareil, il faut le faire. Hein. D'ailleurs, c'est l'hôtel d'Albret de la ville de Paris, hein, le centre de la culture. Vous avez... alors, le plancher en chevêtrure, c'est des charges relativement bien réparties sur deux côtés. Là, vous avez remplacement par une poutre avec une charge ponctuelle, un sommier en béton fait sur une maçonnerie ourdée au plâtre. On peut mettre du plâtre sur du béton, mais pas du béton sur du plâtre. Suivant. Ici, l'incorporation d'un plancher d'une dalle pleine posée sur du pan de bois. Vous voyez le plancher en bois ici. Suivant. Là, c'est pour une fois, c'est relativement bien fait. Là, ils ont profité qu'il y avait deux solives d'enchevêture dédoublées pour placer un H à l'intérieur, entre les deux, et faire un sommier. Suivant. Plancher en fer. On a doublé l'intervalle, mais on a gardé le même système. Suivant. Plancher en fer, IPN, enfin, IAO, IAL ordinaire, et au jet en plâtre sur une paillasse en fer. Suivant. Voilà un bâtiment courant, plancher fer. Suivant. Voilà un autre haussmannien avec le pan coupé, repérage des intervalles structuraux, etc., etc. Suivant. Le fer ne tient pas plus que le bois. Même loin de là, vous êtes sous un évier, là, et ce plancher fer qui a moins de 100 ans, vous pouvez voir dans quel état il est. Suivant. Alors, voilà l'ennemi numéro 1. L'eau et l'humidité sous toutes leurs formes. Et comme disait Machiavel, c'est l'eau de l'intérieur qui est la plus terrible. Alors, il n'y a qu'à suivre... les pluviales, les eaux vannes, les eaux usées, pour voir les cheminements probables des désordres. Suivant. Voilà un plancher bois et un pan de bois sous un évier. Suivant. Sous une douche. Suivant. Sous un WC. Suivant. Sous un étage en retrait. Vous voyez que le linceoir est dans cet état-là. Suivant. Ça, c'est la fameuse pliolite. C'est la fameuse pliolite qui... alors, il y a une règle. On ne peut pas toujours empêcher l'eau et l'humidité rentrer, mais il ne faut jamais l'empêcher de sortir. Elle sortira de toute façon. Suivant. Sous un radiateur d'hôtel. Suivant. Sous un radiateur aussi combiné à un ravalement défectueux où l'eau rentre derrière l'enduit. Suivant. Alors là, ça c'est courant. Les fameuses fontes sphéroïdales de Pont-à-Mousson ne durent pas plus de 15 ans. Là, ça a gelé, bien entendu. Suivant. Alors, voilà ce qui se passe dans le pan de bois, sur le poteau de fond derrière. Pourrissement du poteau de fond du pan de bois. Suivant. Bon. Là, oui, bon, ça s'est pris à Rouen. Vous voyez que vous avez un pan de bois fin médiéval avec un ravalement 19e siècle. Alors, il n'est pas rare de voir un ABF imposer une restauration 19e sur des stylistiques complètement rapportées. Suivant. Là, vous avez à Paris la poutre à lèche, c'est très connue, hein, qui fait le transfert, qu'on découvre à chaque fois, très souvent, sur les rues matricielles quand on refait un ravalement. D'ailleurs, on le voit ici. Alors, probablement, l'ABF demandera un ravalement 19e siècle, typique. Alors que ça, c'est tardo-gothique. Suivant. Oui, là je vais vous montrer la même poutre à lèche traitée par une entreprise célèbre, un des trois grands d'ailleurs, coupée totalement, la rue de la Lavandière, et remplacée par un poitrail en béton armé. Suivant. Marche pas. Ah, incident de tir. Oui, là, l'hôpital des enfants malades. La mode d'enlever les enduits. Bien entendu que c'était enduit, c'est un bâtiment du 19e, ça accroche la poussière, bien entendu, et tous les échanges hygrothermiques sont perturbés. Suivant. Suppression des refends dans les boutiques. Suivant. Vous voyez, suppression des refends. Transversaux. Suivant. Suivant. Découpe, ça c'est très banal. Malheureusement, il y a une pièce très importante qui a été coupée, hein, qui réalise l'indéformabilité, la décharge. Cette pièce s'appelle une décharge. Suivant. Alors voilà un pan de bois type parisien 18e. Vous voyez que il y a des pièces, des sablières, des poteaux de fond, des décharges, etc. Il y a une logique. On ne peut pas couper n'importe quoi. Et il n'y a pas que les charges verticales. Hein. Il y a les efforts horizontaux. Alors, couper ces pièces-là, comme je viens de le dire, c'est très fâcheux. Suivant. Suivant, c'est la même chose. Voilà trancher un pan de bois, là il s'agit encore de la ville de Paris, alors avec du béton armé là, hein. Alors vous voyez que on met du lourd sur du léger, du plastique sur de l'élastique, de l'humide sur du sec. Le bon sens demanderait plutôt l'inverse. Suivant. Là, ça c'est un ACMH qui ne craint pas de couper la pièce principale, qui est la sablière haute, dans un pan de bois sur cour. Suivant. Là, découpe d'un pan de bois, remplacement par du parpaing. Suivant. Et là, il s'agit d'un pan de bois médiéval. On peut le voir aux équarissages, qui n'était pas fait pour être enduit. Relèvement d'allège, avec du béton coulé. Et une magnifique menuiserie en PVC. Suivant. Là, ça c'est encore la ville de Paris, d'ailleurs, ailleurs. Mais, démolition systématique des escaliers. Ça c'est dans un asile, dans une maison pour personnes âgées. Suivant. Parfois, il y a eu des surélévations. Alors là, on voit un reste de ferme. Il faudrait tout de même s'en apercevoir, savoir ce que c'est qu'une ferme. Et ne pas couper des choses comme ça, hein, l'arbre à l'étrier. Suivant. C'est pourtant ce qu'a fait cet architecte, cet entrepreneur. Enfin, que l'entrepreneur coupe, mais que l'architecte laisse faire, ne reconstitue pas, c'est fâcheux. Suivant. Ça aussi, voilà un pan de bois 18e qui n'a jamais eu de bandeau à la hauteur de l'appui de fenêtre. Les bandeaux étaient faits ailleurs. Là, c'est aussi un ACMH. Alors, faire un bandeau comme ça, bien entendu, ça endommage le pan de bois, mais ça va faire des risques d'infiltration par le rejaillissement sur le bandeau, sur le pan de bois. Suivant. Le pan de bois peut tout à fait se restaurer. Ça, c'est médiocre. Néanmoins, c'est possible. Ça vaut peut-être mieux que de l'enlever complètement. Suivant. Voilà un plancher bois traité. Même pas comme fond de coffrage, dans lequel on va noyer absolument toutes les pièces de bois et on travaille comme dans le logement de masse 1870, hein, en, non seulement en travaillant avec une dalle pleine, en béton armé, mais en incorporant les canalisations et pas seulement électriques. Suivant. Vous voyez ce que ça donne ? Suivant. Là, c'est encore un des trois grands, là. Vous voyez ce qui reste de la travure principale d'enchevêtrure noyée dans la dalle pleine. Suivant. Là, très très fréquent, le chevron de jouet dans les lucarnes. Et il y a beaucoup de lucarnes à Paris. Là, c'est des problèmes de couverture. Suivant. Également, regardez ce qui se passe quand on laisse les châssis ouverts. On peut avoir une panne, et encore, il n'y a pas grand-chose d'abîmé ici, mais complètement mangé par la pluie, et souvent, le plancher aussi. Suivant. Voilà. Par la pourriture. Là, bon, c'est un comble place des Vosges. Bon, classique. Ferme chevron, ferme à panne, ferme chevron en croupe. En rouge, vous voyez deux petites lucarnes, qui ont été. Alors, il n'y avait aucune. C'est la ferme d'origine. Il n'y avait aucune trace de lucarne parce que la panne était d'origine. On a coupé la panne pour insérer deux petites lucarnes pour copier une gravure. C'est-à-dire, non seulement revenir à un état dans lequel cet édifice n'a jamais été, mais en plus, l'architecte affirmait que c'était l'état originel. Il aurait mieux fait de dire « j'avais envie de faire ça hein ». Au moins, parce que là, s'il dit « c'était comme ça l'état originel », c'est démenti par les faits. Et là, il perd toute crédibilité. Suivant. Là, une mezzanine en béton armé, coulée dans une charpente. Suivant. Là, tous les jours, il y a au moins 50 escaliers parisiens qui tombent. Là, on peut s'estimer heureux, la poutre palière est conservée. Mais les limons ont disparu. Je vous signale que c'est tout de même curieux, avec les réglementations incendies aussi draconiennes, que le pylône, qui souvent porte même la poutre palière ou ce qu'il en reste tranché, un pylône en tôle qui dure même pas 20 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure au feu. Mais ça marche. Suivant. Là, vous avez un palier intermédiaire. Hein. Alors, avec levier bascule, ici, le plombier a fait un trou au mauvais endroit. On aurait tout de même, l'architecte, quelqu'un a dû lui dire, non, pas là. Suivant. Et là, c'est pareil, bon, c'est pas un palier à bascule, mais c'est pas plus brillant. La colonne de gaz, suivant. Là, c'est les WC de palier. Vous voyez que tout de même, il souffre, le bois souffre beaucoup sous les matières. Suivant. Là aussi, c'est le classique de la plomberie des escaliers, hein, etc., etc. Suivant. C'est... Là, un petit poitrail, enfin, percé d'un... Alors, il y a la jambe étrière qui porte les poitrails. Hein, elle, ici, elle est tranchée par une porte faite par un demi-portique entre deux boutiques. On voit les queues des pierres de taille. Suivant. Là, vous voyez que le trumeau, ici, il penche et que probablement, on a supprimé le tirant. Hein ? Ça, c'est le problème du flambement des murs qui est proportionnel au carré de la hauteur et que si on supprime un tirant, ou si jamais il n'a pas été posé, en tout cas, on ne peut pas plaisanter avec ça. Il y aura flambement du mur, etc. Suivant. Voilà ce qu'on retrouve. Évidemment, dans tout chantier, et encore là, je les ai disposés pour prendre une photo, mais tous les chaînages et ancrages sont systématiquement retirés. Suivant. Vous voyez, là, bien entendu, s'il n'y avait pas ces ancres, le mur, il fout le camp vers l'extérieur. Suivant. Là aussi, on voit, là, en lumière rasante, on voit tout à fait ce qui va se passer. Hein, on voit que là, ça risque de très mal finir si on ne va pas aller regarder dedans ou dehors. Suivant. Là, l'eau aussi, hein, la verticalité montre que, évidemment, il y a un... C'est anormal ici. Hein. D'abord, l'enduit se fait arroser, mais bien entendu, il y a probablement un poitrail et des ancrages défectueux. Suivant. Voilà ce qu'on retrouve... chaînage et ancrage en pratiquement tous les chantiers de réhabilitation. Lourdes. Suivant. Ben là, ça a l'air grave. On est dans une cage escalier. Eh ben, c'est pas grave du tout. C'est en fait la composition hétérogène des parois, c'est le raccord entre le pan de bois et la maçonnerie. Mais justement, il y a de l'alarmisme quelquefois, et l'inverse existe malheureusement trop souvent. Suivant. Bon, suppression des refends transversaux, bien entendu, toute la stabilité du mur est menacée. C'est très très fréquent dans les immeubles de bureaux, pour gagner de la place ou pour faire du bureau paysager. Suivant. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici. Alors le mur, il n'y a plus de contrefort, plus de chaînage, ancrage, etc. Suivant. Où est-ce qu'il ne fallait pas mettre la porte ? Suivant. Déchaussement de fondation, très très fréquent pour gagner une hauteur habitable supplémentaire. Suivant. Percer des collecteurs, bien entendu. Alors, on doit percer par en bas et par en haut, sinon c'est le coup de canon. Un trou de 40 cm en haut se termine par un demi-mètre cube de maçonnerie en dessous. Suivant. C'est ce qui se passe, par exemple, pour aujourd'hui avec la ventilation mécanique ou la climatisation. Suivant. Vous voyez ? Suivant. Les descentes de cave, c'est des chefs-d'œuvre souvent de stéréotomie. Elles sont systématiquement cassées. Suivant. Là, alors, dans le plancher à la française... avec poutre maîtresse et solive, il y a ce qu'on appelle la jambe sous poutre, qui est en pierre de taille, dont on voit des traces ici. Là, l'architecte, à CMH, a pulvérisé la jambe sous poutre pour faire un poteau en béton armé, des poutres métalliques, qui vont être dégagées des appuis parce que c'est beau. Suivant. Vous voyez ? Suivant. Bon, ça, c'est classique, hein, trancher un mur. Suivant. L'assainir l'électricien, là, tout de même, il y a été un peu fort. Suivant. Et bien entendu, la remise aux normes d'aujourd'hui, avec la VMC, etc., et bien entendu, tout ça, ça va perturber, d'abord, il faut les passer, et ça va perturber tous les échanges hygrothermiques. Suivant. Bon, le dernier. C'est pas facile de résumer ça parce que en général il faut une dizaine de clichés pour comprendre un phénomène. Donc je n'ai sélectionné que ce qui était le plus facilement accessible. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, zut. Je vais vérifier parce que. Bon, les fissures, simplement, il faut faire des relevés à la main. Aucune photo ne pourra vous donner une vision complète des fissures dans une façade. C'est impossible. Et pour les interpréter, il faut avoir une vision globale et pas du tout une vision partielle. La vision partielle d'une fissure n'a aucun intérêt. Suivant. Reviens en arrière, s'il te plaît. Oui, et pour moi, une façade commence aux fondations. Et ça, c'est impossible à photographier, bien entendu, hein, puisque le niveau de la rue il est ici. Suivant. Bon, là, la plupart des fissures, c'est connu. La plus fréquente, c'est le tassement différentiel d'extrémité au médian, avec trois types de fissures qui sont interprétées en gardant le moment de flexion et l'effort tranchant. Suivant. Vous voyez, fissure 1, 2, 3. Et il se trouve qu'il y a des rapports numériques, 1 sur 2, enfin des rapports de 1,5 qui sont extrêmement faciles à connaître pour pouvoir les interpréter. Suivant. Voilà la version arc de décharge. Suivant. Voilà la physionomie que ça prend sur les travées de baie réglées. Suivant. Voilà ce qui se passe dans la réalité. Suivant. Ou comme ça, c'est un autre type, suivant, selon la proportion, etc. Le même phénomène vu sous une jambe sous poutre, tassement de la jambe sous poutre, suivant. Tassement du remplissage, suivant. Tassement des deux différentiels, suivant. Là, décrochement d'une façade, basculement, la fondation et rupture d'ancrage, suivant. Ce qu'on peut voir très souvent au rez-de-chaussée, dans l'allure des physionomies des fissures au niveau des trottoirs. Suivant. Balcon. Il y a beaucoup de balcons à Paris. Et le classique, il est là. Hein, ça peut être très grave. Heureusement que la fissure n'est jamais franche. Mais le scellement des grilles du balcon y participe. Suivant. Et là, on est à l'angle. Si on voit ça, on a intérêt tout de même à dire quelque chose. Suivant. Celle-ci n'est pas fréquente à Paris, mais elle est très grave. Hein, c'est les fissures de pavillon, c'est dans les sols argileux, c'est rétractation du sol et fissures en bas. C'est pour ça que tous les pavillons qui n'ont pas de fondation en béton armé d'aujourd'hui chaînés, ça se termine très mal. Suivant. Bon, alors le tableau dont je voulais parler, je vais juste dire quelques mots. Vous voyez, on compare type traditionnel de maison avec logement de masse après 1950. Alors, changement de maîtrise d'ouvrage, etc., du cadre juridique et financier. Je dirais seulement quelques points. Ancien, composite. Moderne, homogène. Ancien, isostatique. Moderne, hyperstatique. Alors, l'hyperstaticité réduit la marge d'adaptation aux modifications du sol d'assise. Et le sol d'assise bouge toujours en raison de la variation de sa teneur en eau. Appui simple, encastrement. Appui simple permet la substitution, l'encastrement la rend très difficile. Un phénomène très intéressant, c'est que dans le bâti ancien, il n'y a pas d'homothétie entre les limites intérieures des parois périphériques et des limites extérieures. Dans le bâti contemporain, il y a homothétie complète. Bien entendu, il y a le problème des isolations. Suivant, je n'ai pas le temps de parler de ça. Suivant. Dans l'ancien, toutes les parois sont en contact permanent avec le sol, alors que dans le bâti contemporain, de masse, une partie sont portées. Alors là, je voudrais juste montrer, ça c'est intéressant pour les architectes éventuellement, voir les rapports entre face interne et externe d'un bâtiment. Suivant. Vous voyez, là, c'est tiré du Blondel. Hein. Vous voyez qu'il n'y a aucun parallélisme ou d'homothétie entre les limites extérieures et les limites intérieures. Aussi bien dans la maçonnerie que dans les éléments de seconde œuvre qui définissent les limites des pièces. Ce qui permet de placer des dégagements, des canalisations et de résoudre certains problèmes de structure. Suivant. Vous voyez ici, dégagement, etc., les lieux, les canalisations, des problèmes de structure aussi. Suivant. Ce procédé est appliqué également systématiquement à l'époque classique, correction des irrégularités d'une parcelle et inscription de formes régulières selon les goûts du jour, les goûts de l'époque. Suivant. Vous voyez, vous avez là un bâtiment, un F4, F5, F3, F5, 75. Il y a parallélisme total. Suivant. Et ça se termine par le fameux monde du carton plâtre. Suivant. Bon, quelques données sur la typologie parisienne. Vous avez 19e, 18e, 17e. Fin médiévale, ici, version nord, version sud. Là, c'est clunisien. Hein. Bon, vous voyez que c'est à la même échelle. Alors, on voit surtout les largeurs de parcelles qui augmentent, des mutations dans les systèmes de plancher et dans la densité de construction, bien entendu. Suivant. Bon, je vous montre très brièvement. Alors, 16e, 17, 18, 19. Oui, là, c'est un plan de structure qui montre ces fameux planchers enchevêtrés dont je vous ai parlé. Là, le plancher traditionnel à la française, médiéval ou XVIIe siècle. Et puis, naturellement, des mutations dans les escaliers, parce que l'escalier, c'est un élément de mode. Et l'apparition de l'escalier à jour suspendu, balancé, qui disparaît avec les cages d'ascenseur aujourd'hui. Suivant. Là, voilà un typique haussmannien. Vous voyez, c'est intéressant de voir la combinaison de la double distribution des enfilades et le graphe que ça donne, qui montre que justement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas l'antichambre qui est la clé, c'est la salle à manger et la souplesse de distribution, etc., etc. Suivant. Là, les façades à la même échelle, vous voyez. Fin 16e, 17, 18, 19, bon. Là, vous voyez le transfert sur les planchers dont je vous avais parlé. 1, 2, 3, 4, 5 étages transférés sur deux planchers en chevêtrure qui se croisent. Là, l'étage en retrait, c'est la seule exception, pan de bois en façade, depuis la fin du XVIe siècle. Suivant. Là, découpe longitudinale qui montre l'omniprésence du pan de bois, sauf au XVIIe, encore que il y en a beaucoup, mais disons ça c'est plutôt typique du XVIIe. Suivant. Là, la coupe du fin médiéval, tardo-gothique, donc. Oui, bien entendu, l'ordinaire est toujours décalé d'environ un siècle par rapport au monumental. Là, le XVIIe, avec les jambes sous poutre. Là, la ferme Chevron, apparition de la ferme à Panne. Un noyau, deux noyaux. Là, c'est le court moment où il y a dominante maçonnerie. Le reste, c'est très souvent dominante charpente. Suivant. 18, 19, avec le gabarit de voirie à 54 pieds. Alors, Pierre Pinon parlait de la monotonie. Je pense que le gabarit, qui d'ailleurs date de la fin de Louis XVI, c'est le gabarit de 17,54 m, y est pour beaucoup aussi. Parce que dès qu'il y a un gabarit, les gens remplissent au maximum, donc c'est ça le fameux pâté de maison. Suivant. Là, vous voyez les caves, etc. Bon, il y a du berceau principalement, mais il y a des petits chefs-d'œuvre de stéréotomie dans les descentes de caves. Hein. Suivant. Bon, là, je n'ai pas le temps de le faire. On peut comparer tous ces types et voir. Alors, simplement, je vous dirai le résultat. On caractérise chaque type, vous voyez, y compris en allant jusqu'à la période contemporaine, en regardant les trois matrices qui sont la matrice distributive, la matrice constructive et la matrice stylistique. Et on voit les renversements qui se passent sur une période de temps long. Ces trois matrices ne sont, et c'est là la nouvelle, ne sont ni plus ni moins que les catégories de Vitruve et d'Alberti. Suivant. Là, vous voyez un haussmannien, 1830-40. Alors, six plans à six niveaux différents. Deuxième sous-sol, majorité maçonnerie, ossature et surface porteuse. Premier sous-sol. Deuxième sous-sol, majorité surface porteuse. Deuxième sous-sol. Premier sous-sol, mixte, mais dominante maçonnerie. Surface porteuse et mineure ossature. Rez-de-chaussée, ossature à l'exception du mitoyen. Pierre de taille, fonte, un peu de bois. Entresol, mixte aussi, mais le dosage bois-métal change. Étage courant, ça s'est multiplié par 5. Retour à la surface porteuse en maçonnerie et la surface porteuse plutôt en pan de bois. Comble, retour à l'ossature. Donc vous avez un bâtiment qui change 5 fois de structure et 5 fois de dosage de matériaux. À comparer avec le logement de masse, un seul matériau, une seule technique, le coffrage outil branché. Suivant. Là, vous voyez, ça c'est une minute sur une parcelle entre la rue de Fourcy et la rue Pavée. Vous voyez, alors, si on regarde tout simplement les planchers, on peut dire ça c'est fin gothique. Ça, c'est 17e, ça, c'est 18e, ça, c'est 19e. Donc, dans la même parcelle, on a 5 siècles. Alors, l'homogénéité stylistique ne tient pas là-dedans. Pas seulement pour des considérations d'historien, pour les systèmes de reprise ou la compréhension de la structure. Suivant. Bon, là, vous voyez que voilà rue Saint-Germain-l'Auxerrois, un pan de bois, bon, un relevé sommaire. En rouge, l'échaînage et ancrage. Et vous voyez que, comme c'est répétitif, on détaille certains étages et on ne détaille pas les autres. Eh bien, déjà, en faisant un relevé comme ça, on a déjà un aperçu du schéma statique. Suivant. Voilà ce qu'on peut voir. D'ailleurs, voilà un pan de bois typique 18e ou 19e. Hein. Il ne va pas rester longtemps, mais vous voyez bien, sa structure est parfaitement connue, répétitive, etc., etc. Suivant. Voilà le schéma statique qu'on peut en tirer pour les efforts verticaux, avec les transferts, ici, concentration, diffusion, et les efforts horizontaux, avec le rôle de la décharge. Suivant. Et je vous signale qu'on ne peut pas faire de descente de Schur s'il n'y a pas de schéma statique. Hein. Bon, là, voilà la fin d'une réhabilitation. Oui, c'est pour les bûches de Noël du chef de chantier. Suivant. Voilà, suivant. Bon, il y a une méthode de diagnostic. Je n'ai pas le temps de le développer. Je dirais simplement que c'est un processus inversé de conception. Dans le neuf, on part du programme pour arriver aux ouvrages de structure. Dans l'ancien, on part des ouvrages, on devrait partir des ouvrages pour remonter à une destination compatible avec les ouvrages. C'est un processus inversé et non pas forcer la structure. Suivant. Ça, c'est un principe de bon sens. Que si une fois qu'on a intervenu, on s'aperçoit qu'on est le dernier, on peut dire qu'on est un fossoyeur. Suivant. Là, vous avez une photo typique parisienne d'une réhabilitation. Hein. Alors, le niveau de la rue est là. 4 étages de parking, charpente changée, tous les planchers, bien sûr, tous les linteaux. Qu'est-ce qui reste? Même pas la peau. Suivant. Bon. Tant pis. Bah oui, si tu arrives à le... Sinon, je conclurai, parce que cela doit être l'avant-dernière. C'est après. Oui, voilà des principes. Diagnostic de structure d'abord, réversibilité, compatibilité des techniques, ne pas modifier le schéma statique, ni l'équilibre hydrique, et le problème de l'intégration des services. Je vais... Attends pour la dernière. Hein. Je voudrais conclure maintenant. Ce qu'on pourrait dire par rapport à la société industrielle, sa principale qualité, c'est d'avoir su se rendre désirable à ceux qu'elle exploite et dépossède. Actuellement, nous rentrons dans une nouvelle phase de division industrielle du travail intellectuel. Et ça, c'est l'informatisation de la société. Et les responsables institutionnels du bâtiment prônent aujourd'hui comme modèle de comportement, même si ça ne concerne qu'une petite partie décrémée, l'ingénieur bidon architecte qui allie l'hyper-rationalité technique au délire pseudo-créatif du cyberespace. En ce qui me concerne, je proposerai un champ d'études et même un projet beaucoup plus terre-à-terre. Que je souhaite positif et tout à fait différent. Voici le projet que je propose. Connaître et apprendre aujourd'hui, dans le domaine de l'architecture et de la construction courante, industrialisée ou non, ce que d'autres ne savent pas faire ou ne savent plus faire, ne veulent pas faire, ou ne veulent plus faire. Si on regarde la quantité d'énergie consommée aujourd'hui d'origine fossile ou nucléaire, on n'en a pas pour plus de 30 ou 40 ans. Le pic pétrolier mondial a été évalué entre 2000 et 2005. Et vous savez qu'on ne peut le connaître qu'après coup, puisque les compagnies pétrolières trichent sur leurs réserves. Les réserves de combustible nucléaire, 60 ans. Par contre, les déchets, plusieurs millions d'années. L'échéance est donc proche. Ce qui va porter un sérieux coup au mode de production industriel, que d'ailleurs la Terre entière ne peut plus supporter. D'ailleurs, ça mettra fin au cancer suburbain. Je trouve que cette perspective est très stimulante pour les nouvelles générations d'architectes et de techniciens qui vont... considérer sous un œil nouveau les enseignements de la charpente et de la maçonnerie traditionnelle, le dessin manuel, l'étude des enveloppes spatiales et la distribution sous un jour nouveau, avec, en prime, je le souhaite, des suivis de chantier débarrassés des sonneries de téléphone portable. Il y a un proverbe qui circule dans la péninsule arabe actuellement. Il est le suivant. Mon père se déplaçait à dos de chameau. Je conduis une Rolls-Royce. Mon fils voyage en jet. Et son fils n'aura d'autre choix que de remonter à dos de chameau. Voilà, je vous propose une version française. Familial. Il y aura mon père, ma mère et mon oncle. Alors mon père montait à pied les escaliers, c'est ce qui lui a évité de finir grabataire. J'utilise mon portable dans la cabine d'ascenseur climatisé qui me propulse à mon bureau au 30e étage. Mon fils ne pourra probablement pas payer la note de gaz, de fuel ou d'électricité de sa maison suburbaine. Et ses enfants devront réapprendre à monter les escaliers, marcher à pied ou à dos d'âne, et même écrire de leurs propres mains. Ma mère se promenait en chemisier l'hiver dans notre loft, et son petit-fils portera des chandails de laine que sa sœur lui aura tissés sous sa triple tunique à manches longues et capuchon. Si mon logement a la chance de posséder un ancien conduit de cheminée, peut-être pourront-ils allumer un feu de bois à l'occasion de quelques fêtes. Mon oncle, architecte, avait breveté le fameux logo de Muracle, un nouveau panneau de mur miracle, Muracle pour mur miracle, en alliage de carbone et de résine époxy avec super isolation de polyuréthane injecté, d'une minceur exceptionnelle et mise en place par GPS. L'étude avait été subventionnée par Landvar. Mais sa petite fille réapprend l'ancestral appareil de briques de terre, mur et voûte comprises. Et avec son frère, elle manie le pisoir, pour le piser, pour construire sa maison dans une colonie agricole d'un genre nouveau. Je vous remercie.
Je voudrais remercier les conférenciers de ces deux exposés absolument extraordinaires. Je pense que toute l'assistance en a a eu beaucoup de plaisir. S'il y a des questions, je veux dire, en tout cas, s'il n'y a pas de questions, il y a le verre de l'amitié qui est à côté, je veux dire, pour, malgré l'heure tardive. Merci.